7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 19 mars. Bonjour à tous. Tolérance zéro pour les casseurs. On savait qu'Emmanuel Macron était furieux après les violences de samedi sur les Champs-Élysées. Eh bien, hier soir, on l'a entendu, car le gouvernement fait le choix de la fermeté. Le détail des mesures dans quelques instants dans le journal de 7h avec Hélène Zélani. 7h40, l'analyse de Jean-Michel Apathy. 7h45, la réaction des principaux concernés, c'est-à-dire les policiers. Est-ce la bonne réponse aux violences? Je poserai la question à David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. 62 ans aujourd'hui, mais ça pourrait être bien plus tard. On parle de l'âge légal du départ à la retraite. Emmanuel Macron avait promis de ne pas y toucher. Pourtant, son report est envisagé par le gouvernement. Explication dans un quart d'heure avec Nicolas Barré. À 7h20, la nouvelle guerre que se livrent les grandes puissances autour de l'intelligence artificielle. C'est un secteur stratégique qui va bouleverser nos vies dans les 30 ans à venir. Ne manquez pas les coulisses de cette bataille. Un dossier passionnant à suivre dans quelques instants à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Voilà pour le programme. Il fait beau, le jour se lève. On est là pour vous accompagner jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Europe 1. Bon réveil à tous.
Merci de nous avoir choisis en ce mardi 19 mars. Excellent réveil. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour ma chère Hélène, Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Plus jamais ça, l'exécutif hausse le ton face aux casseurs et annonce une série de mesures comme la possible interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Quelles étaient les motivations du tueur d'Utrecht aux Pays-Bas? Il a ouvert le feu dans un tram, 3 morts, 5 blessés, les autorités n'excluent aucune hypothèse. Et puis, on ne dit plus Orly Sud ou Orly Ouest. Dès ce matin, l'aéroport change d'appellation avec d'ici quelques semaines un terminal unique.
À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Europe 1. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité, dixit Emmanuel Macron à propos des Gilets jaunes. C'était hier soir lors d'un débat interminable, plus de 8 heures avec une soixantaine d'intellectuels. Le chef de l'État a fermement condamné les plus radicaux, en clair, ceux qui ont mis à sac les Champs-Élysées samedi, plus d'une centaine de magasins touchés, 27 pillés. Les différentes enseignes s'organisent maintenant comme elles peuvent pour recaser leurs salariés. Reportage de Théo Manval.
Il y a ceux qui ont déjà mis une partie de leurs salariés au chômage technique, certains kiosques détruits des Champs-Élysées ou encore cette grande enseigne de chocolaterie. D'autres tentent de jongler avec les reclassements temporaires sur leurs sites annexes en région parisienne. C'est notamment le cas pour Longchamp et les 30 salariés de sa boutique des Champs-Élysées qui restera fermée 3 mois après avoir été incendiée et pillée. Le PDG de la marque, Jean Cassegrain, promet de faire jouer le système D.
On ne veut pas mettre les gens au chômage pour des faits dont ils ne sont absolument pas responsables. On va essayer de mettre à profit ces 3 mois pour faire des choses utiles, soit les repositionner sur d'autres magasins, les envoyer en formation, des congés.
Il n'est donc pas exclu que certains salariés doivent poser des vacances un peu forcées. Et même chose du côté de chez Zara, qui annonce repositionner 140 de ses employés dans différentes boutiques parisiennes. Celle des Champs-Élysées ferme pour au moins une semaine. Outre les restaurants Le Deauville et Le Fouquet's, en plein travaux, Samsung ferme aussi son magasin de téléphone jusqu'à nouvel ordre. En tout, vous le voyez, ce sont donc plusieurs dizaines, voire centaines d'emplois sur les 15 000 que comptent les Champs-Élysées qui sont temporairement à l'arrêt ou déplacés.
Théo Manval.
Et à Paris, les Champs-Élysées où une interdiction de manifester pourrait être décrétée.
Oui, l'exécutif a en effet annoncé une série de mesures pour que les violences de samedi ne se reproduisent plus. Interdiction qui pourrait aussi concerner les places du Capitole à Toulouse et Péberlan à Bordeaux. Aurélie Herbeux.
Pour l'exécutif, pas question de revivre un samedi noir. Le Premier ministre le dit sur France 2, l'objectif est d'empêcher la concentration de casseurs.
Ça suffit, les Français n'en peuvent plus. Nous ne pouvons pas laisser des gens dont la seule revendication est la violence dicter leur loi. Et donc nous voulons interdire les manifestations dans les quartiers qui ont été terriblement frappés lorsque nous savons que des casseurs seront sur place, procéder aux dispersions immédiates de tout attroupement, et tous ceux qui viendront participer à ces attroupements pourront faire l'objet d'une sanction.
La contravention pour participation à une manifestation interdite passera de 38 à 135 euros. Les policiers devront en tout cas davantage aller au contact, une stratégie qui comporte plus de risques, admet Édouard Philippe. Mais le gouvernement assume la fermeté. Un homme en fait les frais, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, est limogé. Il n'aurait pas bien mis en œuvre la stratégie de maintien de l'ordre. Matignon pointe des consignes inappropriées pour réduire l'usage des lanceurs de balles de défense. En revanche, Édouard Philippe l'assure, la démission de Christophe Castaner n'a pas été envisagée.
Aurélie Herbemont.
On y reviendra à 7h45 avec David Lebars, le secrétaire général des syndicats des commissaires de la police nationale.
CGTFO veulent se faire entendre en pleine crise des Gilets jaunes. Les deux syndicats qui ont boycotté le grand débat lancent une journée d'action ce mardi, grève et manifestation notamment pour défendre le pouvoir d'achat. Les enseignants devraient être particulièrement mobilisés. Crèches, centres de loisirs et cantines scolaires pourraient aussi être touchés. En revanche, pas de difficulté à attendre dans les transports en commun. Europe 1, il est 7h04.
Les Pays-Bas encore sous le choc ce matin après la fusillade dans un tram de la ville d'Utrecht.
Oui, 3 morts, 5 blessés. Le suspect a fini par être arrêté en fin de journée. Il est d'origine turque. Ses motivations restent floues. Attentat terroriste ou différend familial. Une chose est sûre, les habitants de la ville ont vécu une journée d'angoisse. C'est ce qu'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Pendant plusieurs heures, Utrecht a vécu dans une ambiance de flottement. La rumeur de plusieurs attaques en début d'après-midi dans différents lieux de la ville, puis finalement un seul lieu concerné, la place du 24 octobre. De longs moments où tous les habitants sont restés confinés. Nick affirme que cela marque les esprits.
Quand vous traversez la rue, l'ambiance est vraiment étrange. Les gens vous regardent et se demandent s'ils peuvent vous faire confiance. Tout le monde est assez silencieux. Ça fait aussi écho à ce qui s'est passé à Christchurch. Le risque que deux communautés commencent à se haïr.
Avec ses rues pavées qui côtoient un quartier ultra-moderne, Utrecht fait figure de ville calme, plutôt sûre, mais Maïka craint aussi des conséquences après un tel incident.
Quel que soit le mobile, ça peut rapidement créer des tensions. J'espère que ça ne va pas se produire ici à Utrecht ou bien dans le pays, car les gens ont tendance à se rejeter la faute après ce qui est arrivé et sans vraiment connaître la cause. Les esprits peuvent vite s'échauffer.
Et ce, d'autant que les Pays-Bas sont en pleine campagne électorale. Les Néerlandais votent demain pour un scrutin régional. Utrecht, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et puis un terrible cyclone a balayé le Mozambique et le Zimbabwe en Afrique australe. Il a fait au moins 182 morts, mais le bilan pourrait dépasser les 1000 morts uniquement au Mozambique.
Terrible.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, avec un nouveau numéro gratuit pour désengorger les urgences dans le Bas-Rhin. On vous dit tout. Bon réveil sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nicolas Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, alors que l'Assemblée vient d'entamer la discussion sur la loi santé. Voilà une initiative originale pour désengorger les urgences.
Oui, dans le Bas-Rhin, un nouveau numéro de téléphone gratuit est mis en place, le 116-117, une plateforme qui doit permettre de mieux orienter les patients. Les urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg sont en effet saturées. Il faut dire que 70% des malades y font tête baissée sans appeler personne. Avec ce numéro, l'idée c'est de créer un nouveau réflexe. Charlotte Béchler.
Au bout du fil, un médecin régulateur vous trouve un rendez-vous chez le docteur pour que rapidement vous soyez dans son cabinet plutôt qu'aux urgences. Une plateforme indispensable pour Christophe Lanong, le directeur de l'Agence régionale de santé.
Aujourd'hui, on a des urgences qui sont en très très grande difficulté, notamment dans la période hivernale. Et 41% des personnes qui vont aux urgences ne devraient pas y aller. La plupart du temps, il faut juste un conseil. Donc ce système, il garantit que très rapidement, alors qu'aux urgences, il faut attendre plusieurs heures, vous allez avoir accès à un médecin.
Mieux orienter les patients pour une prise en charge plus efficace. Le docteur Guylaine Kiffer des Grippes veut changer les habitudes.
C'est vraiment générer un nouveau réflexe qui est réellement de ne pas se rendre aux urgences sans avoir appelé auparavant. On comprend bien l'angoisse des mamans, l'angoisse des gens qui souffrent, qui ont mal, qui ont des vomissements, des diarrhées. Néanmoins, ce ne sont pas la plupart du temps des vraies urgences.
Déjà 130 médecins intègrent ce dispositif test qui doit à terme s'élargir à la région, voire même à toute la France. Strasbourg, Charlotte Béchler, Europe 1.
Vous allez changer vos habitudes car vous ne direz plus jamais « j'atterris à Orly Sud ». Sud ou Orly-Ouest, on dira quoi ?
Oui, à partir de ce matin, le deuxième plus grand aéroport de France change d'appellation. Eh bien, nous dirons Orly 1, 2, 3 ou 4 avant la mise en place d'un terminal unique le mois prochain. Tous les changements de signalétique ont été faits dans la nuit et Aurélien Fleureau y était pour Europe 1.
Nous arrivons à Orly 1, 2, 3.
Plus de 500 panneaux de signalisation à changer. L'opération débâchage et d'estiquage a duré une bonne partie de la nuit. 200 personnes mobilisées sur tout l'aéroport, des travaux qui attirent le regard des voyageurs comme ceux qui ont prévu de passer la nuit sur place pour prendre le premier vol.
En fait, j'ai appris par internet que Orly allait changer de nom et que du coup, on venait dormir ici pour partir à Malaga et qu'au final, il y aura un changement de nom, donc Orly Sud, Orly 4. À 6h55, je pense que nous serons les premiers à partir.
Faire d'Orly un terminal unique était devenu nécessaire pour s'aligner sur les standards internationaux, explique son directeur Régis Lacote.
On a connu la modernité et les développements sur Charles de Gaulle. Eh bien, c'est autour du petit frère, Paris-Orly, d'être un outil qui va offrir les meilleurs services, des espaces renouvelés, des nouvelles zones de commerce, de restauration, y compris des grands chefs qui viendront s'installer ici.
Des aménagements qui permettront dès cette année au futur Orly d'accueillir 3,5 millions de passagers supplémentaires et donc de clients en plus pour les boutiques.
Aurélien Fleureau. Florent Manaudou est en une de l'équipe ce matin avec ce titre. Je reviens. Le champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Londres veut reprendre la compétition après une parenthèse de 3 ans. Il espère s'aligner sur les deux prochains JO en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris. Lui revient, mais eux, ils s'en vont. NTM, le duo Joystar Cool Chain, annonce la fin d'une aventure qui aura duré 30 ans. Leurs deux derniers concerts se tiendront les 22-23 novembre à Bercy. Et les billets seront en vente vendredi.
Je ne vous savais pas fan musique rap.
Mais est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter? C'est la question quand même. Apparemment, cette fois, c'est la bonne. Mais...
tant qu'ils ont la forme, ils viendront. Joystar Cool Chain. Hélène Zelani. Ah ouais, vous êtes une vraie fan.
Ah ouais, elle les connaît toutes.
Le journal de 7h avec Hélène Zelani, à demain.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, ça se passe sur le répondeur au 39-21, 50 centimes la minute, et sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h11, Nico, c'est l'heure de retrouver Martin Feneau qui se trouve comme chaque jour sur le terrain.
Il y avait cette chanson qui disait « Laisse pas traîner ton fils ». Alors lui,
si
il n'arrête pas.
Qu'il glisse.
Hein. Lui, il est partout. Vous êtes où ce matin, Martin ?
Alors Nico, bonjour. Je suis au volant ce matin d'une voiturette. Sur un green de golf impeccable au Cap d'Agde. Si je suis là, c'est parce que dans quelques jours, la pelouse sur laquelle je roule en ce moment sera arrosée par l'eau qui sort de votre lave-vaisselle, de vos toilettes, une eau totalement recyclée, traitée dans une station d'épuration et qui va donc irriguer cet immense terrain. C'est la première fois que la loi française l'autorise à grande échelle. Écoutez Claude Goudard, le directeur du golf.
L'arrosage annuel du golf, ça représente 350 000 mètres cubes d'eau par an, à peu près la consommation d'une ville de 10 000 habitants. Et aujourd'hui, avec ces travaux, nous allons pratiquement économiser les deux tiers de la ressource. C'est très intéressant.
Mais si c'est beau pour la planète, Martin, et que ça fait des économies, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi on le fait seulement aujourd'hui?
En fait, Nikos, aujourd'hui, tout s'accélère. Le Parlement européen vient de voter un projet de loi pour inciter les États à mieux réutiliser leurs eaux usées. La France a fait évoluer sa réglementation. Écoutez, le responsable de la station d'épuration, ici Jean-Pierre Angouet, il parle d'une révolution.
Cette eau a une deuxième vie. Simplement, on rejetait cette eau et on ne l'utilisait pas. Et maintenant, elle devient une ressource. C'est quand même mieux que de jeter ça à la mer, par exemple.
Et désormais, donc, on va pouvoir irriguer les golfs, mais pas seulement, hein, les cultures aussi. Imaginez-vous que bientôt, on pourra même boire l'eau qui sort des stations d'épuration. J'ai rencontré un expert, Nicolas Condon. Il m'a prouvé, il m'a présenté une de ses bouteilles remplies d'eau recyclée en provenance de Singapour.
Voilà, donc elle est ouverte, je ne sais pas si vous voulez la goûter.
Ah bah allez-y d'abord.
Bon ok, alors je la goûte.
Je vais goûter aussi.
C'est comme de vrai quoi.
Elle a un goût tout à fait normal.
Comme une bouteille d'eau minérale que vous achetez, sauf que la source c'est les eaux de ma douche, c'est les eaux de mes toilettes, c'est les eaux de ma cuisine, et puis c'est les eaux qui circulent sur les trottoirs par exemple. Sauf qu'il n'y a plus de traces de pollution dans cette eau-là.
Non mais j'entends la démarche pour le bien de la planète, ça me laisse un peu perplexe. Est-ce que c'est autorisé en France, Martin ?
Pas encore, mais figurez-vous qu'en Vendée, une station d'épuration expérimentale va bientôt tester la transformation d'eau usée en eau potable.
Merci beaucoup Martin Feneau, vous êtes toujours sur le green de golf ?
Toujours sur le green de golf, mais je me suis arrêté là.
Il fait beau là-bas ? Il fait beau chez vous, dans le sud ?
Il fait très beau, il fait très très beau.
On est impatient de goûter à cette eau recyclée. Enfin oui, on va goûter, on verra bien. Merci Martin !
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco, Nicolas Barré, il ne recycle jamais les infos, c'est toujours du frais. Tiens, on va parler de l'âge de la retraite, du départ à la retraite, c'est 62 ans aujourd'hui, mais attention, ça pourrait être plus.
Ben voilà, on croyait que ça ne bougerait pas et en fait, ça pourrait bouger finalement.
Vous avez des infos là-dessus ?
Vous allez voir, oui.
7h20, les coulisses de la guerre que se livrent les grandes puissances autour de l'intelligence artificielle. Après l'informatique, après Internet, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle révolution technologique qui se prépare et elle va bouleverser nos vies. On vous dit tout, on vous en parle dans Repas va plus loin dans quelques instants. Tout
bon
suite.
Réveil à tous, il est 7h14. Il est 7h15, les
principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Christophe Castaner devant le Sénat. Le ministre de l'Intérieur va devoir s'expliquer devant la commission des lois sur les violences de samedi. L'exécutif veut éviter à tout prix un nouveau samedi noir, avec notamment l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, et ce pour empêcher la concentration de casseurs. Les trois quarts des Français soutiennent la journée d'action de ce mardi dans la fonction publique à l'appel de la CGT-FO. Elle devrait être particulièrement suivie dans les écoles maternelles et les écoles primaires. Florent Manaudou annonce son retour à la compétition, champion olympique à Londres en 2012. Il avait consacré 3 ans de sa vie à ses autres passions, le handball et le cinéma. Un mot de météo, fraîcheur, pas mal de soleil dans l'ensemble. Ce matin, il fait jusqu'à moins 3 degrés dans le nord-est. Cet après-midi, température maximale de 11 à 15 degrés.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Europe 1. C'est l'heure à présent de l'édito Econicos avec la banque Les Derniers. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, banque Les Derniers, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, le président de la République avait promis de ne pas toucher à l'âge légal du départ à la retraite, qui est de 62 ans. Mais apparemment, il ne pourra peut-être pas tenir sa promesse, car le débat est désormais ouvert.
Oui, rappelez-vous, Édouard Philippe, d'ailleurs, à votre micro, vendredi, avait dit que la question du report de l'âge légal se posait de façon légitime. Alors, c'était une sacrée brèche, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron avait écarté cette hypothèse pendant la présidentielle. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a embrayé ce week-end en disant, elle aussi, que la question de l'âge était sur la table. Et alors, depuis, c'est l'effervescence. On voit bien que la sortie du grand débat peut faire bouger des lignes qu'on croyait être des lignes rouges, en fait.
Au fond, ça veut dire que si on veut de meilleures retraites, ce qui est une revendication depuis le début de la crise sociale actuelle, en fait, il faudra travailler plus.
Exactement. Il n'y a pas, contrairement à ce que font croire certains démagogues, de trésors cachés dans lesquels il suffirait de puiser pour financer toutes les demandes. La seule manière d'augmenter les retraites et aussi, d'ailleurs, et ce n'est pas accessoire, de financer la dépendance, eh bien, c'est de travailler davantage, plus longtemps. La France, il faut le rappeler d'ailleurs, c'est le pays où l'espérance de vie à la retraite est la plus longue du monde. Donc, il faut bien financer ces longues retraites. Alors, pour alléger la facture, on s'en souvient tous, le gouvernement, l'automne dernier, avait imaginé 2 choses. D'abord, il avait désindexé les retraites de l'inflation, ça fait faire des économies, et puis il avait augmenté la CSG des retraités. On connaît la suite, il a dû reculer sur les 2 tableaux et maintenant, il faut bien financer tout ça.
Parce que ça veut dire que le financement des retraites va plonger dans le rouge sinon, c'est ça?
Oui, prenez par exemple la fameuse désindexation des retraites qui a mis en colère les retraités. Ça devait permettre d'éviter un déficit du régime de retraite de 5 milliards d'euros à l'horizon 2022. Donc si on renonce à cette mesure pour préserver le pouvoir d'achat des retraités, il faut bien trouver l'argent ailleurs. On en revient donc à la question de l'âge de départ. Les syndicats espéraient qu'on ne toucherait pas aux 62 ans dans le cadre de cette grande réforme des retraites qui se prépare. Eh bien, ça n'est plus sûr du tout. Voilà.
Nicolas, vous avez quel âge ?
50 ans.
Est-ce que vous pensez qu'on a le même âge, qu'on aura notre retraite ?
Ah oui, tout à fait. Oui.
On l'aura à quel âge, à votre avis ?
En plus de 62 ans, ça c'est sûr, 65, 67, peut-être davantage, vous verrez.
Donc il nous reste encore 17 ans à nous réveiller à 3h du matin. En gros, c'est ça.
C'est formidable.
Hein, magnifique, avec vous. Nicolas Barré, tous les jours pour le Zoom Echo sur Europe 1.
Europe 1, Nico Saliagas. Et il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin et ce matin, on part dans les coulisses de la bataille pour l'intelligence artificielle.
Internet a eu 30 ans la semaine dernière et pour les 30 ans à venir, la révolution technologique, ce sera l'intelligence artificielle. Des machines capables de conduire des voitures, de faire des diagnostics médicaux. Alors, on est encore au début, au balbutiement certes, mais c'est un énorme enjeu pour les grandes puissances. Alors, il y a un pays qui est en pointe, ce sont les États-Unis. On y retrouve notre correspondant permanent d'Europe 1, Xavier Yvon. Bonjour Xavier.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Alors comme pour l'informatique, comme pour Internet, les États-Unis veulent mener cette prochaine révolution technologique et vous le constatez, vous notamment à New York, hein.
Oui, c'est ici à New York que l'on trouve par exemple l'un des cerveaux de l'intelligence artificielle et il est français, il s'appelle Yann Lequin. À 58 ans, c'est l'un des pionniers de l'IA, comme on dit. Il a développé le deep learning qui permet aux machines d'apprendre toutes seules pour, par exemple, traduire des textes ou reconnaître des visages sur des photos. Pour vous donner une idée de l'importance d'un chercheur comme Yann Lequin ici, il a 2 casquettes. Il est à la fois le patron de la recherche sur l'intelligence artificielle à Facebook, qui emploie quand même 500 personnes rien que pour ça, et il est aussi le créateur d'un labo et d'un master à NYU, la grande université de Manhattan. C'est là que je l'ai rencontré devant un tableau rempli de formules mathématiques. Et si Facebook comme NYU s'investissent autant dans l'intelligence artificielle, eh bien c'est parce que c'est l'avenir.
Ça va changer le monde, ça va changer la manière dont on fait beaucoup de choses. Si tout le transport, les voitures se conduisent toutes seules, ça va changer la manière dont on organise les villes, par exemple. Si des technologies telles que la téléprésence par réalité virtuelle aussi apparaît, ça va aussi complètement changer la nature de l'interaction entre les gens. C'est-à-dire les gens vont voyager peut-être moins, parce que, en tout cas pour le boulot, parce qu'ils pourront être présents virtuellement dans une autre pièce. Et puis, il va y avoir des changements aussi au niveau du gouvernement. Donc, pour prédire les demandes pour la santé publique, on peut analyser, par exemple, la santé publique en analysant ce qui passe dans les égouts. Des choses comme ça,
il y en a à l'infini, ou presque. Tout le monde en est bien conscient, jusqu'au plus haut dirigeant de la planète. Vladimir Poutine l'a dit lui-même, celui qui sera leader en intelligence artificielle dominera le monde. Et le président chinois Xi Jinping, lui, l'a bien compris, il a annoncé que son pays serait numéro 1 de l'IA d'ici 2030.
Et c'est pour ça que la Chine est aujourd'hui l'autre poids lourd de l'intelligence artificielle, Xavier.
Oui, la Chine s'est éveillée à l'intelligence artificielle à un moment très précis, raconte Yann Lequin, le jour où un programme créé par des Occidentaux a battu l'un des meilleurs joueurs du monde au jeu de Go. Ce sont les échecs asiatiques.
En Chine, le Go, c'est un élément culturel très important. Enfin, c'est pratiquement une religion pour certains. Donc, ça a été un choc. Et ça a un peu galvanisé les forces, à la manière dont Spoutnik a galvanisé les forces américaines pour la course à l'espace. Donc le gouvernement investit massivement. Il y a aussi au niveau populaire, de même que la course à l'espace est très un sujet sur toutes les lèvres dans les années 60 aux États-Unis. Tous les enfants s'y intéressaient, etc. En Chine, il y a un petit peu la même chose, mais pour l'intelligence artificielle. Shanghai est une des rares villes dans le monde où je suis reconnu dans la rue, par exemple.
Et je vais vous donner un exemple frappant. Une seule ville en Chine, Tianjin, qui n'est pas la plus grande, eh bien, elle a annoncé un investissement de 14 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. C'est 10 fois plus que le budget prévu par Emmanuel Macron pour la même technologie en France.
Ah ben c'est très impressionnant. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est la Chine qui va dominer l'intelligence artificielle, donc le monde a encore Poutine ?
Ben l'Europe, elle est à la traîne, très clairement, parce qu'elle n'a pas la puissance de feu du gouvernement chinois ou des géants de la tech américains. Alors, il y a très bons chercheurs en Europe, bien formés, mais ils sont trop mal payés, en France notamment, d'où une fuite des cerveaux. Et Yann Lequin en est la preuve vivante.
On assiste donc à une bataille USA-Chine, mais l'Europe, dans tout ça, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. La bataille de l'intelligence artificielle est lancée, elle ne fait que commencer. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, pour ce dossier signé. Europe 1 va plus loin.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone 3921 ou sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1. L'innovation avec Anissa Mbida ce matin, des passages piétons, ambiance disco. Pour éviter les accidents, vous plaisantez ?
Non, c'est très sérieux, parce que surtout c'est un sujet très très sérieux. Il y a énormément d'accidents au passage piéton. Mmh. Et donc tout ce qu'on peut faire pour les éviter, bah, c'est tant mieux, même si on met des boules à facettes disco, comme vous dites.
Pourquoi pas ?
C'est Canteloup, là, sort de ce corps. A tout de suite, Anissa.
Une belle matinée à tous sur Europe 1 avec Nico Saliagas, il est 7h23. Il est 7h25. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
On compte chaque année en France plus de 100 accidents mortels sur les passages cloutés. Donc évidemment, tout le monde cherche des solutions. Par exemple, des passages piétons qui pourraient biper, qui clignotent pour éviter les accidents.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les chauffards. Hein. Parfois, le piéton peut être simplement masqué par une voiture, hein, déboulé au dernier moment parce qu'il est distrait ou qu'il fait moins attention. Hein. Ça peut être un enfant ou une personne âgée, par exemple. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des passages piétons son et lumière. Alors la lumière, ce sont des petites ampoules incrustées dans la chaussée le long des bandes blanches qui vont clignoter dès qu'un piéton va s'engager. Comme ça, les motos, les voitures seront averties de très très loin quand quelqu'un arrive.
Et les piétons aussi seront avertis,
Oui, ça c'est le côté son hein, après la lumière. Hein. Il y a une alarme sur le trottoir qui se déclenche dès qu'une voiture arrive à plus de 10 km/h. En plus, on ajoute des petites lumières au sol qui vont clignoter, qui pourront attirer l'attention de tous ceux qui ont le nez, vous voyez, rivés sur leur téléphone portable.
D'accord.
Mais aussi pour les personnes âgées qui ont tendance à regarder toujours par terre. Et moi, ce que j'aime dans ce système, c'est qu'il oblige aussi bien l'automobiliste que le piéton à ralentir, à faire un peu plus attention à ce qu'il y a autour de lui. Et rien que ça, ça peut éviter énormément d'accidents.
C'est pas trop de nuisances sonores, en fait, dans la rue ?
Non, c'est des petits, vous savez, c'est un peu comme les aveugles quand aujourd'hui, au passage piéton, ouais, il y a des petits toc-toc-toc-toc, voilà, les malvoyants ou les aveugles.
Et là, on mettra bonnet M, c'est ça ? Ou de la musique ?
Pourquoi pas ?
Une petite bip-bip-bip-bip. Regarde autour de toi, mon ami, regarde autour de toi.
On le rappelle, depuis janvier, un arrêté permet au maire de créer une zone
tampons de 2 à 5 mètres autour des passages piétons, et justement pour éviter aux voitures stationnées de masquer les piétons qui traversent. Merci Anissé pour l'innovation du jour sur Europe 1.
L'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kahneman, mais tout de suite c'est la météo avec
vous
Laurent
Cabrol. Lui il vient toujours avec ses petits gling-gling.
Toujours avec ses petits
il arrive,
musique.
On dirait le Père Noël. Et le fond de l'air est frais, mon Lolo.
Oh là là, moins 3 à Luxeuil, moins 2 à Belfort, moins 1 à Beauvais, 0 à Lille, 1 à Strasbourg, 3 à Lyon, 4 à Paris, 6 à Cognac, couvrez-vous. Voilà. Ensuite,
merci.
On va pouvoir quand même respirer dans l'après-midi. Bon, ce ne sera pas encore le printemps, mais pas loin. Température entre 11 et 15 degrés, c'est pas mal. En ce qui concerne la couleur du ciel, ne vous fiez pas trop aux apparences, chers amis, parce que bien souvent, cela va changer. Sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen, ce sera du beau temps. Hein, il fera beau à Lyon, à Marseille, par exemple. Un ciel qui va bouger sur la région parisienne. C'est clair ce matin, un peu beaucoup moins dans l'après-midi, mais il ne pleuvra pas, je m'y engage. Champagne-Ardenne, Centre, Val-de-Loire et Poitou-Charentes, légèrement voilé. Littoral de la Manche, souvent nuageux. Et puis au pied des Pyrénées, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des petites pluies. En ce moment, il y a des petites pluies à Pau, à Tarbes, à Biarritz. Donc tout le long des Pyrénées, sur 150 km de large, eh bien, vous avez des intempéries modestes et modérées. Je vous disais tout à l'heure, réservez, mes amis, la journée de vendredi et de samedi. Les journées. Pourquoi ? Parce que nous avons un coefficient de marée de 115 avec cet équinoxe demain.
D'accord.
Demain, c'est le printemps. Mm-hmm. Coefficient de marée de 115, c'est très élevé. C'est le deuxième plus élevé de l'année.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir aller à la pêche à pied.
Ah.
Vendredi et samedi prochain, la pêche à pied, ça va être un régal.
J'ai pas de canne à pêche.
Ouais, il faut en assurer.
Ouais, vous avez des doigts et des pieds.
Un petit filet.
J'ai un hameçon. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Bonne
à
journée.
À suivre, Nikos.
Jean-Michel Apathy à 7h40, évidemment. Les mesures face aux violences des casseurs, le gouvernement qui fait le choix du tout répressif. Attention, risque d'escalade, nous dira Jean-Michel. 7h43, Axel de Tarlé, panique dans le monde du champagne. Les bulles ne font plus rêver les jeunes, branle-bas de combat chez les producteurs pour les faire revenir. 7h45, première réaction des commissaires de police après l'annonce des mesures anti-casseurs. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, sera mon invité. Excellent réveil à tous sur Europe 1. Merci de nous faire confiance.
En ce mardi 19 mars, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Céline Kahneman, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Des conversations enregistrées ont permis de faire avancer l'enquête sur l'attaque des deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe il y a 2 semaines. Europe 1 vous le révélait dès hier, 5 détenus ont été placés en garde à vue après une opération de police. Le journal Le Parisien fait état d'échanges que les agents du renseignement n'ont pu écouter que le lendemain de l'agression. Pauline Jacquot.
Ce sont des discussions qui ont eu lieu dans un espace commun de la prison de Condé-sur-Sarthe. Des conversations entre celui qui allait agresser au couteau deux surveillants de l'établissement et quelques-uns de ses co-détenus. La veille de cette attaque, certains d'entre eux conseillent Michael Chiolo. Ils discutent du moment, de la manière, comment procéder pour pouvoir blesser les gardiens, les frapper en visant les côtes, agir à l'ouverture des portes de la cellule, lui dit-on, précise Le Parisien. La conversation n'a rien d'anodin, d'autant que parmi les suspects, il y a un homme condamné dans un dossier terroriste. Le seul parmi les 5, selon nos informations, il faisait partie de la cellule de Torcy, un groupuscule qui avait attaqué à la grenade une épicerie cachère de Sarcelles en septembre 2012. Un autre suspect, proche de l'islam radical, mis en garde à vue hier par la police, devait lui sortir de prison dans les semaines à venir. Toutes les voix dans ces discussions, qui n'ont été écoutées qu'au lendemain de l'attaque, ne sont pas identifiables. Reconnaître ces voix, c'est tout l'enjeu des auditions de ces détenus lors des gardes à vue.
Pauline Jacquot, on apprend ce matin que les deux surveillants qui ont été blessés ont reçu hier l'Ordre National du Mérite. Un miracle cette nuit à Draguignan dans le Var, un immeuble s'est totalement embrasé. Les images sont impressionnantes. Aucune victime à déplorer selon un premier bilan. Une quarantaine de personnes a dû être relogé dans la nuit. Ouverture aujourd'hui du procès à Rennes d'un homme soupçonné d'avoir harcelé sur Internet et menacé de mort. La journaliste Nadia Dam a pris une chronique sur Europe 1 en 2017. Elle dénonçait une campagne de haine sur un forum de jeux vidéo.
Les annonces du gouvernement vont-elles être suffisantes pour endiguer les violences après le saccage des Champs-Élysées samedi ?
Hier soir sur France 2, le Premier ministre Édouard Philippe s'est voulu très ferme. Manifestation non déclarée sur les champs interdites, l'envoi de policiers plus mobiles au contact avec les casseurs, mais ces mesures vont-elles vraiment stopper les gilets gilets jaunes les plus radicaux et les black blocs. On peut se poser la question vu la réponse de certains gilets jaunes. Une centaine d'entre eux ont déposé une plainte collective pour dénoncer des actes attentatoires à la liberté de manifester ou de circuler, comme Sabrina, 26 ans, dont la détermination reste intacte.
C'est pas la première fois qu'il y a une entrave à notre liberté de circuler. Mais là, ça devient vraiment violent parce qu'on ne se gêne même plus, en fait, de porter atteinte aux libertés de chacun. Donc là, on se demande comment ça va se passer, s'ils vont arrêter tout le monde, s'ils vont bloquer la rue. Et puis, de toute façon, je sais pas si ça va avoir un effet dissuasif sur certains. Moi, personnellement, et beaucoup d'entre nous, ça nous empêchera pas de faire. Ils peuvent pas bloquer toute la capitale, donc on ira ailleurs. Ça ne va absolument pas m'arrêter.
Un propos recueilli pour Europe 1 par Jeanne Bergaoui. Le préfet de police de Paris a été limogé. Michel Delpech, remplacé par Didier Lallemand, jusqu'ici préfet en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'opposition, ce changement revient à faire sauter un simple fusible. Hier, Bruno Le Maire a annoncé des mesures pour répondre à l'urgence économique après les dégradations sans précédent ce week-end. Anne-Laure Jumet.
Depuis 10 jours déjà, les commerçants les plus touchés peuvent demander au fisc d'annuler leurs impôts. Encore faut-il qu'ils connaissent le dispositif. Didier Chenet, président du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.
Moi, je vous avoue que pourtant, je suis dans ce business, je n'étais absolument pas au courant. Je crois qu'effectivement, il y a un problème de déficit d'information.
Les commerçants impactés par le mouvement des Gilets jaunes peuvent aussi demander un étalement du paiement de leurs impôts. La mesure devait s'arrêter le 31 mars, elle est prolongée jusqu'au 30 avril. Et pour mieux faire connaître ces dispositifs, les agents de Bercy vont être déployés partout en France, explique le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Ces brigades d'intervention doivent aller démarcher les commerçants, les artisans, les indépendants, avec l'ensemble des documents pour que ces artisans, ces commerçants, ces indépendants puissent être aidés pour remplir les formulaires, pour qu'ils puissent avoir en direct les conseils dont ils ont besoin et qu'ils puissent savoir de quels droits ils peuvent bénéficier.
Et pour trouver le formulaire adéquat, il faut aller sur le site impots.gouv.fr. Fin février, 925 entreprises avaient bénéficié d'un étalement du paiement de leurs impôts.
Anne-Laure Jumet.
Journée de mobilisation dans toute la France aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Force ouvrière.
Une mobilisation pour défendre le pouvoir d'achat. Marie-Claire Caglietto de la CGT se dit prête à accueillir les gilets jaunes dans les cortèges.
Plus les gens se mettront ensemble, plus on aura de chances de se faire entendre parce qu'aujourd'hui quand même, on a l'impression que le gouvernement est particulièrement sourd à nos questions. Donner la parole aux gens, c'est pour les entendre. Donc oui, on veut aujourd'hui dire, nous on a des propositions et il faut qu'elles soient entendues de manière urgente et précise.
Un propos recueilli par Martin Choc.
Et si on plongeait dans le grand bain avec un champion? Parce qu'il revient, Florent Manaudou.
Et oui, il fait la une de l'équipe ce matin et annonce au quotidien son retour avec un objectif, Jérôme Lacroix, l'or au JO de Tokyo.
Oui, et pourtant, il y a peu encore, il tenait plus jamais la natation. Alors, c'était une posture. Sinon, on m'aurait embêté tout le temps avec mon retour, raconte-t-il aujourd'hui. Alors, ce qui lui manquait, c'est pas la natation en soi, c'est la compétition, l'œil du tigre avant de plonger, dit-il. Alors, 3 ans qu'il avait arrêté pour le handball, ses premières amours sportives, hein, 15 rencontres avec l'équipe B d'Aix-en-Provence en 4e division. Il s'ennuyait, il avait du temps. Alors, il a pris la guitare, il a fait aussi un petit peu de comédie dans des séries télé, mais bon. Aujourd'hui, il vibre à nouveau, Florent Manaudou, avec la perspective, vous le disiez, de l'or olympique à Tokyo dès l'année prochaine. Et puis, pourquoi pas Paris 2024. Manaudou aura presque 34 ans, mais rien d'impossible. En 2016, l'Américain Ervin était sacré champion olympique du 50 mètres nage libre à 35 ans et après 8 ans loin des bassins.
Merci Jérôme Lacroix.
Un objectif donc, l'or pour Manaudou.
Oui, bien vu.
Pardon.
Je l'ai. Moi, j'ai compris.
Quelqu'un
sûr, on l'a tous.
Vous l'avez ?
Pas mal.
Merci les amis. C'était Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy, dans quelques instants ensemble, on parle de quoi ?
Eh bien, il faut revenir sur les mesures présentées hier par le Premier ministre à propos de la crise des gilets jaunes, des mesures qui sont à la fois une escalade ou un engrenage et aussi un piège, je vous explique tout ça.
Votre analyse dans quelques instants. Axel de Tarlé, on va parler champagne.
Oui, le champagne qui n'a plus la cote en France et ça inquiète les professionnels.
Bon, à tout de suite, Apathy Tarlé, dans un instant sur Europe 1.
Et continuez à réagir avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Il est 7h36, bon réveil. Il est 7h38, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Interdiction de manifester dans certains quartiers, comme les Champs-Élysées. Nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Le préfet de police limogé. Le préfet de police de Paris. Emmanuel Macron est ferme. Hein. Il ne veut plus voir des scènes de violence comme celle de samedi dernier. Est-ce que ça peut marcher, Jean-Michel ?
Il faut l'espérer. Il faut l'espérer pour les Gilets jaunes, parce que cette violence ne sert évidemment pas leur cause. Il faut l'espérer pour l'intérêt général, parce qu'on ne peut pas vivre dans ce climat et tous les samedis avec des scènes de pillage qui dépassent l'entendement. Après, il faut analyser les mesures qu'a présentées hier le Premier ministre pour mesurer le risque qu'elle comporte et le piège dans lequel elle nous enferme. Le Premier ministre dit à Paris, à Bordeaux et à Toulouse, on ne pourra plus manifester, ce sera interdit dans des lieux symboliques comme les Champs-Élysées, la place Péberlan à Toulouse ou le Capitole à Bordeaux ou le Capitole à Toulouse. Mmh. C'est une mesure de bon sens. On ne peut pas livrer chaque semaine les Champs-Élysées au pillage. Et en même temps, c'est une escalade. On commence à interdire des manifestations. Il y a quelques jours ou quelques semaines, on n'imaginait pas ça. Le gouvernement, les pouvoirs publics, les responsables politiques disaient le droit de manifester, c'est constitutionnel. On interdit des manifestations. Mais en fait, on va déplacer le problème. Parce que les manifestants qui ne pourront pas aller sur les Champs-Élysées, ils iront ailleurs et les violences se produiront ailleurs. Donc l'engrenage qui est mis en place, c'est l'interdiction totale des manifestations. Et il faut quand même se rappeler que les Gilets jaunes, c'est un mouvement de contestation sociale. Interdire des manifestations qui portent des revendications sociales, c'est d'une certaine manière vouloir étouffer la douleur qu'on ne peut pas soulager. Et ça peut radicaliser en masse une partie de la population. Il y a là, dans l'esprit public, quelque chose qui peut relever de l'affrontement entre les Français.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je veux dire qu'il y a... Ce sont des éléments de guerre civile, en fait. Ça n'est pas la guerre civile parce qu'il faut la coagulation de nombreux éléments pour qu'on soit dans une guerre civile, mais ce sont des éléments épars de guerre civile. C'est extrêmement dangereux. Le piège, c'est ça. La mesure est de bon sens et la mesure est porteuse de choses horribles. C'est pareil pour l'engagement des forces de l'ordre. Le Premier ministre dit que le contact sera plus direct. Bien sûr, on a bien vu que samedi aux Champs-Élysées, casseurs et pilleurs avaient été livrés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire le contact plus direct ? Le Premier ministre a eu cette phrase hier à Matignon, il faut quand même la citer précisément. En donnant plus de mobilité aux forces de l'ordre, nous les exposerons à des contacts plus durs. Ça veut dire que le gouvernement, aujourd'hui, assume davantage de blessés dans les opérations de maintien de l'ordre, et peut-être davantage que des blessés. C'est une évolution dans le discours qui est terrible, là aussi. Et on en comprend.
Parce que la crainte jusqu'à présent, c'était un décès.
Bien sûr. On se culpabilisait des blessés, on ne voulait pas de mort. Là, le Premier ministre dit tout à fait autre chose hier. C'est, on assume tout. On assume des opérations de maintien de l'ordre dont le bilan peut être terrible. Ça aussi, c'est un élément de guerre civile. Au total, on a pensé que le grand débat avait permis de surmonter la crise des Gilets jaunes. Et ce qu'on comprend après la journée de samedi et après les décisions d'hier, qu'au contraire, nous sommes peut-être entrés, même sûrement, dans la phase la plus dangereuse de la crise provoquée par les Gilets jaunes.
Le point de vue de Jean-Michel Apathy exprimé tous les jours sur Europe 1. Et les policiers dans tout ça, que pensent-ils de ces mesures ? Je poserai la question tout à l'heure, dans 5 minutes, à David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Axel de Tarlet, c'est la panique dans le monde des fines bulles. Hein, les ventes de champagne en France et en Grande-Bretagne s'effondrent. Pourquoi ?
Ben oui, il y a un vrai malaise. Hein. Donc les ventes ont à nouveau baissé. C'est la deuxième année d'affilée en France, moins 4% l'an dernier. Idem en Grande-Bretagne. Or, la France et la Grande-Bretagne, ce sont les deux marchés historiques du champagne. Hein. C'est 60% des volumes. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, si on grossit le trait, si on caricature un peu, le champagne est gentiment en train de se ringardiser, en train de devenir une boisson très statutaire, à la papa, qu'on débouche pour les occasions convenues, Noël, anniversaire, mariage. Mais le champagne manque de fun, manque de pétillant, notamment auprès des jeunes générations qui vont proférer le Prosecco, par exemple, vous savez, c'est ce vin italien qu'on utilise pour faire des spritz, ou même le cava. Qui est le cava espagnol, qui a en plus l'avantage d'être beaucoup moins cher. Alors, le tout quand même, je rajoute, surtout à 7h43.
Avec modération.
Voilà, avec modération.
Mais comment faire ? Est-ce qu'il y a des pistes pour rajeunir l'image du champagne ?
Alors, ce qui est bien, c'est que la profession en est consciente et s'inquiète du problème. Et elle a lancé, je ne sais pas si vous l'avez vu, toute une campagne de publicité, justement pour désacraliser cette image trop statutaire, trop figée du champagne. Donc, on voit une coupe de champagne dans une cuisine, négligemment posée à côté d'un œuf dur, à côté d'une boîte en sardine, d'un artichaut, d'un brie, avec ce slogan « Rien à fêter pour toutes les occasions ». Et puis, on monte surtout une seule coupe de champagne, vous voyez, pour banaliser l'instant, pour montrer qu'on peut se prendre une coupe de champagne comme on se prendrait un verre de vin ou une bière.
Seul, déjà.
Voilà, seul, voilà. Alors, sauf que du coup, cette campagne fait grincer des dents dans le champenois, parce que justement, elle banalise, elle désacralise le champagne qu'on pourrait boire finalement comme de la petite bière. Bah, écoutez, on touche là toute la difficulté de la communication dans le luxe, parce qu'il faut à la fois élargir la clientèle, mais il faut rester exclusif.
Faut garder le rêve.
Voilà, ouais. Il faut toucher un maximum de gens tout en faisant croire qu'ils sont uniques, qu'ils sont dans l'exception. Mais enfin, c'est un vrai défi, parce qu'il y a là une alerte très sérieuse. La France, la Grande-Bretagne, ce sont les deux grands marchés historiques. Alors, ailleurs dans le monde, le champagne continue de cartonner. Mais enfin, voilà, il y a une alerte sur ces terres, dans le champenois.
Axel de Tarlet, le Zoom Écho avec des bulles ce matin. Tous les jours.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
On vient d'en parler avec Jean-Michel Apathy. Le gouvernement durcit le ton pour mettre fin aux violences des casseurs. Mais que disent les policiers? Que pensent-ils des mesures annoncées hier par le Premier ministre? Je poserai la question dans quelques instants à David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Une belle matinée sur Europe 1, il est 7h44. Les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Après les violences de samedi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé de possibles interdictions de manifestations dans les quartiers les plus touchés. Le préfet de Paris a été relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par Didier Lallement, préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Aux Pays-Bas, 3 morts lors d'une fusillade à Utrecht. Le principal suspect, un homme de 37 ans d'origine turque, a été interpellé. Deux pistes sont envisagées, terrorisme ou différend familial. Florent Manaudou annonce son retour dans un entretien accordé à l'équipe. Le nageur français précise qu'il va reprendre la compétition en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L'aventure NTM touche à sa fin. Joey Starr et Coolchen ont annoncé que les deux derniers concerts, ce sera en novembre à Paris.
Europe 1. Nikos Aliagas, les violences comme celle de samedi dernier sur les Champs-Élysées, c'est terminé, a dit Emmanuel Macron. Hier soir, le gouvernement a dévoilé des mesures anti-casseurs. Qu'en pensent les policiers? Vous recevez ce matin David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Bonjour David Lebars.
Bonjour.
Interdiction de manifester dans certains quartiers, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, une plus grande autonomie des forces de l'ordre sur le terrain, un PV de 135 euros en cas de participation à une manifestation interdite et des nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Est-ce que les mesures d'Édouard Philippe sont satisfaisantes pour vous ?
Alors, il y en a qui retiennent l'attention et je crois que la plus importante face à ces nouvelles formes de menaces qui sont constituées par des groupuscules extrêmement violents et qui maintenant agissent avec une détermination incroyable, et on l'a vu samedi sur les Champs-Élysées, celle que l'on retient, nous, forces de l'ordre, c'est sur la notion de chaîne hiérarchique assouplie, d'une plus grande fluidité du service d'ordre pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir une réactivité qui paraît maintenant essentielle face à l'urgence et face à la réactivité de ses propres groupes qui sont là pour faire très vite, pour casser très vite, pour se dissoudre très vite. Il faut raccourcir cette chaîne de commandement, ne pas déposséder le chef du dispositif, mais donner aussi de la confiance aux policiers et aux gendarmes sur le terrain qui ont eu à faire face à certaines choses. Et quand on reste dans un schéma hiérarchique classique avec une remontée d'informations, il y a un délai de latence qui fait qu'on met nos policiers en danger.
L'interdiction de dire pas de rassemblement sur les Champs-Élysées, est-ce que c'est pas déplacer le problème dans un autre quartier?
Alors, il faut d'abord expliquer, parce que il s'agira pas, dans l'esprit du gouvernement, je pense, d'interdire les manifestations, puisque ça n'aura strictement aucun effet avec les Gilets jaunes, qui depuis 18 semaines, ouais, font justement tout le contraire et ne respectent pas le cadre juridique de la manifestation. L'intérêt, c'est si des préfets, notamment le préfet de police, prend un arrêté d'interdiction sur un périmètre donné. Première mesure, évidemment, il ne faudra pas y mettre les forces de l'ordre pour sanctuariser, parce que ça consomme des effectifs et ça n'a pas d'intérêt. On a vu que ça avait échoué par le passé. Mmh. En revanche, si des personnes en gilet jaune ou avec des tenues de casseurs se présentent sur un périmètre qui est arrêté, ça permettrait aux forces de l'ordre de s'y rendre et de procéder à des interpellations. Donc c'est une des mesures dans un ensemble qui permet d'évoluer ou de toute façon de progresser, puisqu'il fallait bien proposer certaines choses et faire face à ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Le Premier ministre, à propos des violences de samedi, a dit que la stratégie du maintien de l'ordre n'avait pas été correctement exécutée. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Bah écoutez, moi, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, il faut être lucide. Quand on voit le bilan de la journée de samedi, on peut quand même considérer que c'est un échec. Alors, d'abord nommer les responsables de l'échec. Les responsables, c'est avant tout les casseurs, tous ceux qui sont venus sur le périmètre des Champs-Élysées et qui ont cassé ou cautionné ou qui se sont rendus complices de ce qu'on a vu. C'est un véritable désastre pour la plus belle avenue du monde. Et puis après, il faut aussi avoir la lucidité de dire que le service d'ordre n'a pas bien fonctionné parce qu'on n'a pas pu empêcher tout ça. Alors il y a sans doute des raisons à ça. C'est là où il sera très important de faire des rétex, comme on dit en termes militaires. Un retour d'expérience, associer les gens de terrain, les responsables du dispositif, et puis faire le bilan de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et être capable d'évoluer en fonction de la demande des gens du terrain. Les gens du terrain, les gens qui sont associés à ces dispositifs sont les mieux placés pour dire ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer d'améliorer les dispositifs qui vont venir.
Comme les LBD par exemple, les lanceurs de balles de défense, ils ont été moins utilisés samedi et le Premier ministre a dit que ça n'était pas les consignes qui avaient été données.
Ça n'est pas les consignes du gouvernement. Les retours qu'on a, effectivement, il y a une restriction sur l'usage du LBD. Maintenant, il faut aussi être lucide. On ne règle pas ce type de violence avec le LBD uniquement. Ça reste un des outils à la disposition des forces de l'ordre quand ils sont extrêmement engagés. Moi j'ai des retours de collègues qui sont à la tête de compagnie qui ont été agressés par des groupuscules et qui sont venus au contact pour essayer de casser du flic comme on dit, et à ce moment-là il faut laisser à nos policiers le LBD, c'est pas la solution pour régler les conflits, mais évidemment il ne faut pas non plus créer une forme d'inhibition au sein des forces de l'ordre. C'est aussi la sortie du débat sur les violences policières qui a sans doute créé quelques fragilités et quelques incertitudes.
Et quelques interrogations. Tout à l'heure, notre éditorialiste Jean-Michel Apathy disait qu'en fait, la crainte numéro un pour à la fois les politiques, mais les policiers, c'est une personne décédée, en fait. Et on veut éviter un tel scandale, un tel malaise. Est-ce que le j'assume du Premier ministre sonne vers une direction plus dure pour samedi prochain ?
Oui, mais il faut préciser cette notion de risque. Le Premier ministre s'est engagé à assumer à la fois le risque et à ce que la police aille plus au contact. Moi, je rappellerai que le 1er décembre, on avait frisé le chaos. En tout cas, on avait une journée dramatique en termes d'agression sur les policiers, puis également sur les biens. Et le 8 décembre, on avait une stratégie qui était une stratégie de mobilité qui consistait à aller au contact. Et ce jour-là, on avait interpellé plus d'un millier de personnes. La police avait été très dynamique. Et le soir, on avait un bilan humain qui était très honorable. Il y avait moins de blessés que le 1er décembre. Donc la stratégie attentiste, ça n'est pas la bonne en termes de bilan. Mmh. Ça n'est pas non plus celle qui fait qu'on a moins de blessés. Maintenant, il est évident que dans la classe politique, et en France depuis 30 ans, depuis le fameux syndrome Malik Houssekine, il y a la crainte de celui ou celle qui devra endosser un mort. Et bien évidemment, il faut faire confiance aux forces de l'ordre. On n'est pas là pour tuer la population. Il y a des risques, mais les risques qui sont engagés par ceux qui viennent pour causer des violences. Il y en a même certains qui les cherchent et qui font tout pour que ça arrive. Il faut travailler absolument dans les règles légales républicaines, ne pas non plus paralyser nos forces de l'ordre et le pays par rapport à des casseurs et par rapport à cette crainte, mais être lucide sur le fait que c'est un risque, mais ce risque est déjà présent.
David Lebars, depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 1550 affaires jugées, il y a eu plus de 350 casseurs incarcérés. Est-ce que les magistrats font ce qu'il faut ?
Moi, je me suis jamais permis d'aller pointer des défaillances au niveau de la chaîne pénale pour une raison simple, et je le redis sur votre antenne. On doit déjà nous-mêmes, force de l'ordre, et ça fait partie de la doctrine qui doit évoluer, progresser sur la façon de judiciariser nos propres affaires. Quand on passe du maintien de l'ordre à la judiciarisation, il y a beaucoup de difficultés, on en est nous-mêmes responsables pour présenter des procédures correctes à la justice. Et puis le deuxième point, il faut aussi dire les choses, il y a des sujets qui se traitent judiciairement et puis il y a également ceux qui se traitent sur le terrain. Des nébuleuses black blocs, avant d'espérer les condamner et les mettre devant la justice, il faut déjà les traiter sur le terrain. Si on commence à interpeller des gens et à dire à la justice ça c'est du black bloc, il faut des preuves. Quand on a affaire à des gens qui sont extrémistes, ultra dangereux, ultra violents, il faut les neutraliser.
Vous
n'avez
pas les moyens pour avoir des preuves ?
C'est pas qu'on n'a pas les moyens. Le black bloc, vous savez, c'est une technique, c'est une guérilla urbaine. C'est des gens qui arrivent, ils sont capables de se vêtir en 10 secondes. Ils sont intégralement vêtus de noir avec le visage dissimulé. Ça agit très vite, ça repart. Et puis si on les attrape pas sur le fait, on les attrapera pas après. Mmh. Donc il y a ce qui se traite sur le terrain. Et à un moment, il faut aller au contact, il faut les neutraliser, il faut les bloquer. Quand on arrivera à procéder à ce genre d'opération, là, on pourra ensuite présenter des gens à la justice.
On reçoit à 8h15 dans l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara, la ministre, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, vous, en tant que policier et policier syndiqué ?
Vous savez, les policiers souvent ont l'impression que la justice n'est pas assez sévère par rapport aux gens qu'on interpelle. Ça, c'est un sentiment que je ne peux pas nier au sein des forces de l'ordre. Les policiers sont parfois un peu mitigé sur le sort qui est réservé à certains délinquants multiréitérants et qui sont présentés à la justice et, selon certains policiers, pas souvent assez sanctionnés. Moi, je rappelle toujours qu'on fait partie tous les uns les autres d'une chaîne pénale. Je crois qu'il faut aussi fluidifier tout ça. Il faut peut-être mettre plus de magistrats dans les services de police pour qu'ils se rendent compte du quotidien. Il faut que nous-mêmes, policiers, en aillent encore plus chez les magistrats pour leur faire savoir ce qu'on vit et voir ce qu'eux-mêmes vivent, parce que la justice est aussi une institution paupérisée. Et quand on apprendra tous à beaucoup mieux se connaître, on obtiendra aussi des résultats.
Donc ce que vous voulez que nous lui disions, c'est faisons connaissance un peu plus, c'est ça, à la ministre ?
Un peu plus, et amenons les magistrats dans les services de police, mais ceux du quotidien et ceux où on a la délinquance de masse, pour qu'ils voient ce qui se passe réellement.
Merci David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, le journal de 8h avec David Doucan et la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. La musique qui donne un goût de fromage, vous allez comprendre.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1, 7h55. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Et ce matin avec vous, Jean-Philippe Ballas, vous allez nous dire que la musique... Parfois, on en fait tout un fromage. Hein.
Oui, on en fait de l'emmental, pour être précis. Bon, d'abord, moi, j'aime bien les gens qui se posent les vraies questions dans la vie. Celle-ci, par exemple, la musique a-t-elle une incidence sur le goût du fromage ? Et j'aime encore plus les gens qui répondent, bah tiens, on va vérifier. Et c'est ainsi que pendant plus de 6 mois, dans une cave d'affinage quelque part en Suisse, on a tenté l'expérience avec tout plein de styles différents. Non. Je vous décris le dispositif. Un alignement de caisses en bois, un emmental posé dans chaque caisse, avec un petit haut-parleur juste en dessous relié à une platine vinyle.
C'est drôle.
Il y avait les Mental Rock qui écoutaient plutôt du Led Zepp. Il y avait aussi les Mental classiques. Alors lui, c'est plutôt Mozart, la flûte enchantée.
C'est drôle.
Et enfin, le c'est préféré malin. De Céline Dacosta, les Mental Hip-Hop, Tribe Called Quest, une valeur sûre. Alors tout de suite, je vous sens un peu perplexe hein, dans la cuisine. Attendez la suite parce que tous ces fromages ont été goûtés à l'aveugle. Et vous savez quoi ? Eh ben, il y a bien une différence de goût. Plus fruité pour l'emmental hip-hop, paraît-il, qui a reçu des fréquences graves. Et plus épicé, plus fort pour l'emmental classique, plutôt dans les aigus. Alors, on nous promet maintenant des expériences scientifiques plus poussées pour comprendre le phénomène. En attendant, le fromager DJ, lui, il kiffe la vibe parce qu'on lui demande des emmentals de partout. Maintenant, des emmentals blues. On lui a même demandé un emmental ACDC. Et là, les amis, je dis, coupons une tranche et monte le son.
C'est bon, ça. Magnifique. Je connaissais l'influence de la musique sur les plantes, mais pas sur le fromage.
Voilà.
Les mentales, c'est dingue.
C'est génial.
Jean-Philippe Ballas, pour la petite histoire qui fait du bien tous les jours sur Europe 1.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite, c'est la météo. Elle fait du bien aussi avec Laurent Cabrol sur Europe 1.
Oui, il a un look assez décé ce matin.
C'est vrai. Ouais.
Parce que le printemps arrive demain, il faut bien que... Voilà. Allez, explose de joie.
Allez, on ne va pas en faire tout un fromage. Alors, en ce qui concerne les minutes à venir, vous allez avoir, chers amis, des températures qui vont grimper fort heureusement dans l'après-midi, c'est-à-dire 11 degrés à Clermont-Ferrand, 12 à Nancy, Colmar, 13 à Toulouse, à Lille et Paris, 14 à Lyon et Brive, 15 à Nice et 17 à Montpellier. Quant à la couleur du ciel, eh bien, sachez que près des Pyrénées, ce sera souvent très humide, près de la Manche, souvent très nuageux, ailleurs, un ciel voilé, à Paris, il ne pleuvra pas, mais nous aurons pas mal de nuages l'après-midi, et il fera assez beau dans les régions de l'Est et sur le bassin méditerranéen. Voilà.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Et bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1 ce mardi 19 mars. Excellente matinée, il est 8h. Et votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour David Doucan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
L'actualité du jour avec vous.
Des manifestations interdites, un préfet de police débarqué, une doctrine du maintien de l'ordre plus ferme. Le gouvernement tente de se ressaisir après le fiasco sécuritaire de samedi. Page complète dès le début de ce journal avec le Sénat qui n'entend pas se contenter de déclarations martiales. Le ministre de l'Intérieur devra s'expliquer aujourd'hui devant les parlementaires. Les sénateurs ont prévu de ne pas l'épargner. La course contre la montre des ostréiculteurs de Charente-Maritime. Il faut sauver les huîtres. Ils craignent l'arrivée d'une marée noire après le naufrage du Grande America.
Et puis à 8h12, Vincent Herouette nous parlera de la campagne présidentielle qui est déjà lancée aux États-Unis. Et à 8h15, la réponse pénale est-elle à la hauteur face aux casseurs ? Audrey Crespo-Mara reçoit la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Europe 1. Là maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées seront interdits à toute forme de rassemblement.
La première réaction publique d'Emmanuel Macron. C'était hier soir, tard à l'Élysée, le chef de l'État débattait avec des intellectuels. Et on vient de l'entendre, il promet une tolérance zéro, désormais, face aux casseurs. Les policiers auront mandat pour disperser tout rassemblement sur les Champs-Élysées, notamment. Alors justement, allons-y sur cette avenue. Les commerçants sont-ils convaincus par la riposte proposée par le gouvernement ? Reportage Victor Dolande.
Les vitrines sont loin d'être réparées, mais les commerçants pensent déjà à samedi prochain. Interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, ça ne servira à rien selon Aristide, vendeur dans un magasin de souvenirs.
Je pense pas que ça va les arrêter, au contraire, ils vont toujours trouver un moyen pour casser ou pour défier les autorités.
Samy, lui, tient un kiosque à journaux au milieu de l'avenue. Samedi dernier, il a vu des commerces partir en fumée à quelques mètres de lui. Les annonces d'Edouard Philippe le rassurent, mais seulement à titre personnel.
Je vous cache pas que... ça me permet de souffler, parce que nous, tous les samedis, on se dit qu'est-ce qui va nous passer encore, qu'est-ce qui va nous arriver, mais c'est déplacer le problème. Ils vont aller manifester boulevard Saint-Germain, ils vont aller à Montparnasse, ils veulent casser, ils cassent où ils veulent.
Dans sa boutique de vêtements, Olga est perplexe, elle pense surtout à son chiffre d'affaires qui n'arrête pas de baisser.
C'est bien d'être sucrusé les champs, mais... les clients ne vont pas venir, c'est la même chose.
Un autre commerçant m'a confié que ces mesures n'allaient faire que renforcer l'atmosphère qui plane sur les Champs-Élysées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cette avenue, dit-il, est devenue une zone morte.
Reportage signé Victor Dolande pour Europe 1.
Et puis David, une tête est tombée.
Oui, celle du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, est débarqué. Il sera remplacé par Didier Lallemand, qui était jusqu'ici préfet de région en Nouvelle-Aquitaine. On fait tomber un lampiste pour l'opposition qui aurait préféré voir Christophe Castaner être limogé. Le ministre de l'Intérieur reste en poste. Le Premier ministre, lui, a réitéré sa confiance et il va en avoir besoin de confiance tout à l'heure au Sénat. Christophe Castaner devra s'expliquer devant la commission des lois à 16h30 et les parlementaires ne le ménageront pas. Adrien Beck.
Une fois de plus, on montre qu'on ne laisse rien passer. Avec gourmandise, ce sénateur de droite donne le ton, car une nouvelle fois, la majorité sénatoriale compte mettre l'exécutif sur le grill sur le thème « Comment un tel déferlement de violence a-t-il été possible au bout de 18 samedis de mobilisation des Gilets jaunes ?» Tout cela sans esprit polémique, assure-t-on à la commission des lois. Mais quand même, les angles d'attaque sont déjà prêts. Le gouvernement est pris en flagrant délit d'impréparation, lance déjà un poids lourd de la droite qui ajoute « Le maintien de l'ordre ne souffre aucun en même temps ». Car à travers Christophe Castaner, c'est bien Emmanuel Macron qui est visé par les sénateurs. Castaner, ce n'est qu'un rouage, ça déconne au plus haut sommet de l'État, assure un élu. Avec ses auditions, le Sénat entend bien continuer à utiliser son pouvoir de contrôle sur le gouvernement, réaffirmé depuis l'affaire Benalla. Un sénateur s'en amuse, il va falloir qu'il s'y habitue.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 qui parle d'audition au pluriel puisque Bruno Le Maire sera lui aussi entendu au sujet des conséquences économiques de ces violences. Et maintenant, cette information du service police-justice d'Europe 1, le domicile d'Éric Drouet a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Éric Drouet, figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes, c'est lui qui voulait, vous vous en souvenez peut-être, marcher sur l'Élysée. Il a découvert son pavillon en région parisienne, enduit de peinture jaune. Sa voiture a également été repeinte de la même couleur et les pneus du véhicule ont été crevés. Éric Drouet a porté plainte auprès de la police. La CGT et Force ouvrière veulent faire entendre leur voix aujourd'hui. Journée nationale d'action interprofessionnelle dans le public et le privé. On attend une mobilisation forte dans les écoles primaires et maternelles. À Paris, une manifestation est prévue à partir de 13h au départ de Saint-Michel jusqu'au Champ de Mars.
Les conséquences catastrophiques du cyclone qui a frappé le Mozambique et le Zimbabwe.
Oui, le bilan pourrait dépasser les 1000 morts selon le président du Mozambique. La tempête a balayé en fin de semaine dernière routes, ponts, hôpitaux, écoles et bien sûr habitations. Beira, la deuxième ville du pays, est détruite à 90%. Écoutez, Christian Paillet, responsable de la région pour la Croix-Rouge.
Les habitations ont été détruites par le vent, mais également sont inondées. C'est une zone où vivent près de 1 600 000 personnes qui seraient affectées par ce cyclone. On sait que ces habitants ont des besoins d'abris temporaires, d'eau. Il y a des risques d'épidémie, puisqu'il y a des inondations très fortes actuellement, des routes impraticables. Les équipes doivent se déplacer soit en hélicoptère, soit difficilement par bateau. Malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre encore aujourd'hui toutes les populations sinistrées.
Christian Paillet de la Croix-Rouge avec Pauline Jacquot pour Europe 1. L'auteur présumé d'une probable attaque terroriste aux Pays-Bas a été arrêté. La police néerlandaise a interpellé un homme originaire de Turquie, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht. Le bilan est de 3 morts et 5 blessés.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan. la course contre la montre des ostréiculteurs de Charente-Maritime. Ils craignent l'arrivée d'une marée noire et ils mettent leurs huîtres à l'abri le plus vite possible. On vous dit tout juste après ça.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Et nous allons partir dans le journal de David Doucan en Charente-Maritime, là où les huîtres sont menacées.
Oui, conséquence du naufrage du Grande America, la nappe de fioul lourd est toujours en mer, des barrages flottants ont été mis en place hier, mais on craint toujours l'arrivée des hydrocarbures sur les côtes. Les ostréiculteurs de Charente-Maritime se préparent au pire, opération mise à l'abri pour les huîtres. Reportage à Foura, près de Rochefort, signé François Coulon.
Pas une minute à perdre, Jonathan et Eric Bénard mettent leur tracteur à l'eau dès le début de la marée basse pour récupérer un maximum d'huîtres stockées dans les parcs de la Pointe de la Fumée.
On remonte des huîtres, on remonte du stock. Après tout ce qui est naissant, 18 mois, bah malheureusement, on va les laisser à l'eau et on va espérer que ça passe par-dessus. Pour ça, il n'y a rien à faire du tout.
C'est un peu la panique ?
Un petit peu quand même. Moi, j'ai jamais connu ça.
Tout ce qui est la partie naissant, juvénile, ce serait vraiment la catastrophe si c'était touché. Une mortalité, c'est une mévente sur 3-4 ans.
Une tonne et demie de coquillages sont immergées dans des bassins en circuit fermé. Elle aussi a déclenché en urgence le plan Sauf qui peut, Véronique Coutin.
Je protège mes huîtres, hein. Je ne veux pas que mes huîtres soient touchées par la pollution. Je les ressors des parcs et je les remets en clair.
C'est une course contre la montre, là, pour
oui,
vous
pour nous, oui. On a des huîtres au large, mais la mer est dessus, donc on ne peut pas les attraper. C'est une angoisse totale. Si je n'ai plus le droit de vendre mes huîtres, je fais comment? Tout s'arrête. On se rend malade, hein? Je dors pas, je mange pas.
Les 5 salariés de Véronique scrutent eux aussi le large avec la boule au ventre. Tous les ostréiculteurs du secteur vont demander à des huissiers de faire des constats de l'état de leur site avant contamination. S'il y a pollution, on aura des preuves pour attaquer l'armateur. Foura, François Coulon, Europe.
Et à partir de demain débute au mémorial de la Shoah à Paris une exposition sur le marché de l'art sous l'occupation de 1940 à 1944.
L'occasion de parler de la spoliation des Juifs. On estime à 100 000 le nombre d'objets ou d'œuvres d'art volés par les nazis. La moitié seulement a été récupérée après la guerre, mais des chercheurs ne renoncent pas à faire justice. L'Or d'Autriche a rencontré Emmanuel Pollack, une historienne de l'art qui essaie sans relâche de débusquer des tableaux volés par le Troisième Reich pour les restituer aux descendants des Juifs spoliés.
Son dernier fait d'armes, une toile qui vient d'être rendue par le gouvernement allemand à la famille de Georges Mandel, homme politique juif assassiné par la milice française en 1944.
L'œuvre a été restituée à la petite fille de Georges Mandel le 8 janvier 2019. Il y a toujours énormément d'émotions parce que quand on restitue un tableau, on ne restitue pas qu'un tableau. C'est une mémoire, c'est une identité.
Emmanuel Pollack se déplace en Allemagne, aux États-Unis, à la recherche d'archives. Elle scrute les catalogue dans les ventes aux enchères et elle est très attentive dès qu'elle réussit à s'approcher d'un tableau.
J'aime beaucoup regarder le verso de l'œuvre parce que les dos des tableaux parlent, ils sont bavards, il y a des étiquettes qui peuvent nous donner des pistes à suivre, il y a des marques, des cicatrices.
S'il y a aujourd'hui encore tant d'œuvres à retrouver, dit-elle, c'est parce qu'après la guerre, ce sont les mêmes fonctionnaires qui avaient spolié les Juifs qui ont été chargés de restituer les tableaux, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de zèle.
L'Or d'Autriche pour Europe 1. Vous vous souvenez, Nikos, de Florent Manaudou ?
Évidemment.
Bien sûr. Champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Londres en 2012. Eh bien, il annonce son retour à la compétition ce matin dans le journal L'Équipe. Il se consacrait depuis 3 ans à ses autres passions, le handball et le cinéma. On avait surtout pu le voir à la télévision. Objectif pour le nageur, les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.
Vous êtes un grand nageur, m'a-t-on dit, David Doucan ?
Je l'étais. Voyez-vous, j'ai un peu perdu de ma superbe.
Non, mais vous avez gardé cette soif de plonger dans l'inconnu de l'information.
C'est vrai, c'est bien dit.
Pour la décrypter.
C'est bien dit.
David Doucan pour le journal de 8h, tous les jours sur Europe 1.
À demain.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Et on plonge à 8h12 dans l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour cher Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous.
La présidentielle américaine, c'est dans un an et les démocrates battent déjà la campagne et c'est le tour de chauffe.
Oui, 15 candidats déclarés, des femmes, des latinos, des jeunes loups qui rivalisent pour défier Donald Trump. Le rêve américain enseigne aux enfants que n'importe qui peut devenir président des États-Unis et l'élection du Donald a prouvé que c'était vrai. Normal qu'il y ait un trop-plein de vocations. Au Parti démocrate, c'est tout sauf Trump. On ne rêvasse plus d'un impeachment. Il s'agit d'empêcher sa réélection. Alors Nancy Pelosi cherche un tueur. Le meilleur pour remporter le scrutin n'est pas forcément le chouchou des médias. Mmh. Et si on interroge l'électeur de l'Iowa, le meilleur reste Joe Biden, l'ancien vice-président. Alors il coche toutes les cases. Il vient de la classe ouvrière, de Pennsylvanie, l'électorat à reconquérir. Il est centriste, il est populaire chez les Noirs. Barack Obama le soutient. Il y a 4 ans d'ailleurs, Biden avait renoncé à se déclarer, terrassé par la mort de son fils.
Et on attend sa déclaration de candidature dans les heures ou dans les jours qui viennent.
Alors il s'est trahi ce week-end, il a dit en meeting « Je suis le plus progressiste des candidats » avant de se reprendre « Je serais le plus progressiste si je me présentais ouais. ». C'est presque aussi maladroit et raté que Nathalie Loiseau, mais les Américains savent que c'est le roi des gaffeurs. C'est lui qui, dans une précédente campagne, avait lancé à un paralysé en chaise roulante, venu le soutenir « Levez-vous pour qu'on vous applaudisse ». Hier, Donald Trump a tweeté « Encore un individu à faible quotient intellectuel ». C'est féroce, mais il surveille de près sa cote dans les sondages. La curiosité, évidemment, c'est que Joe Biden aura 78 ans, Nancy Pelosi 80 et Donald Trump 74. Ce n'est pas l'Algérie de Bouteflika, mais quand même, aux États-Unis, le tiers de la population a moins de 25 ans. En Amérique comme en Afrique, il y a des vieux messieurs qui gouvernent des peuples jeunes. C'est le contraire ici, où les Européens vieillissent et leurs dirigeants sont de plus en plus jeunes.
Vincent Hervouette pour l'édito international tous les jours sur Europe 1.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara, vous êtes déjà dans les starting blocks.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Votre invitée, c'est la garde des Sceaux, on l'a dit depuis ce matin.
Exactement, elle était hier aux côtés du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre quand il a fait ses annonces après le chaos de samedi. Elle est donc très bien parlée pour nous en parler, puis nous parler aussi des interpellations d'hier, 2 semaines après l'attaque des gardiens à la prison de Condé-sur-Sarthe. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, sera mon invitée.
On a hâte de vous écouter dans quelques instants.
Il est 8h14, à tout de suite sur Europe 1. Il est 8h17, Nicolas Aliagas.
L'interview politique avec Audrey Crespo-Mara qui reçoit aujourd'hui la garde des Sceaux.
Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Hier, vous étiez aux côtés du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre quand il a fait ses annonces après le chaos oui. de samedi. Donc, Christophe Castaner n'aurait rien à se reprocher et le préfet de police a été limogé parce que tout est de sa faute, c'est ça ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire exactement les choses comme ça. Le gouvernement est évidemment responsable de manière globale. Ce qui a été dit ici par le message du Premier ministre, c'est qu'il y avait une doctrine qui avait été mise en place par le gouvernement entre le 1er et le 8 décembre et qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'application de cette doctrine.
Et le préfet était le fusible idéal ?
Ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis simplement qu'il y a eu des dysfonctionnements.
Mais c'est comme ça que c'est vécu,
et
en
cela a été traduit par, évidemment, des conséquences en termes de perte de personnes.
Quand il y a des dysfonctionnements, c'est à cause du préfet de police ou de ministre qui donne les consignes ?
C'est ce que je vous ai dit. Il y avait des consignes claires, politiques, qui avaient été données par le ministre entre le 1er et le 8 décembre, c'est-à-dire au fond après les incidents gravissimes de l'Arc de Triomphe, et que dans l'application de cette doctrine, ce qui ne relève pas du ministre,
mais de la préfecture,
il y a eu des dysfonctionnements.
Donc d'autres têtres pourraient tomber.
Écoutez, ça ce sera au ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de l'Intérieur.
Samedi, Nicole Belloubet, il y a eu quelques 340 interpellations et dès hier, des comparutions immédiates.
Absolument, oui.
Combien, avec quel profil et quelle condamnation ?
Alors, il y a eu une 60aine de comparutions immédiates qui ont eu lieu hier, il y en aura également d'autres aujourd'hui. Hier, les comparutions immédiates portaient, je dirais, sur les cas les moins lourds, puisque c'était celles qui étaient qui faisait suite aux interpellations du début de la journée de samedi. Et donc, on avait des profils qui n'étaient pas parmi les plus lourds. Ce sera aujourd'hui que nous aurons les profils les plus lourds.
C'est-à-dire, quel profil ?
C'est-à-dire des gens qui ont été vraiment des casseurs. Et donc, dans les sanctions qui ont été prononcées par les juges hier, je ne les ai pas toutes là, mais il y a manifestement eu de la prison ferme. Et je crois d'ailleurs que les procureurs ont fait des réquisitions extrêmement sévère.
Et donc il y en aura encore aujourd'hui ?
Bien sûr. Et on pourra faire un bilan dès ce soir ou demain matin.
En 4 mois, quelques 9000 personnes ont été interpellées.
Oui, on a à peu près 8500 personnes qui ont été vues par la justice. Il y a eu évidemment des jugements derrière qui, pour certains, ont été sévères.
Combien de condamnations et quel type de condamnation là encore ?
Alors,
sur les 4 mois hein.
Globalement, oui. Globalement, si vous voulez, on a à peu près 1800 jugements qui ont eu lieu au moment où je vous parle. Sur ces 1800 jugements, à peu près 40% de peines de prison ont été prononcées, ce qui est tout de même important.
Ferme ou avec sursis ?
Voilà, 60%. Qui, en revanche, ont fait l'objet d'un sursis. Et 40% de peines de prison ferme. Et 60% qui ont fait l'objet d'un sursis. Il faut savoir également que nous avons à peu près autant de jugements à venir, c'est-à-dire à peu près 1800 jugements qui restent à avoir lieu. Et puis, en plus de cela, il y a eu des peines qui ne sont pas des peines de prison, à peu près 1800 également.
Donc, travaux d'intérêt général et compagnie.
Voilà. C'est ça. Donc on ne peut pas dire, comme je l'entends parfois, que la justice est laxiste.
Alors justement, c'est ce que nous disait encore ce matin David Lebars du syndicat des commissaires de police.
Les policiers souvent ont l'impression que la justice n'est pas assez sévère par rapport aux gens qu'on interpelle.
Voilà, il était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Écoutez, moi je crois, d'abord globalement, quand on regarde le nombre de prisonniers qu'on a en France, on ne peut pas dire que la justice soit laxiste, globalement. Et sur les événements des Gilets jaunes, je crois vraiment que tant les procureurs qui requièrent des peines sévères, que les magistrats qui, dans leur indépendance, énoncent ces peines, je crois, choisissent des sanctions qui sont adaptées. Il faut bien voir que parmi les personnes qui sont interpellées, nous n'avons parfois pas les profils les plus lourds, des casseurs les plus lourds, et dans ces profils qui sont interpellés, souvent, ce sont des premières fois. Et donc, vous devez forcément adapter la peine. Je ne justifie pas le laxisme, j'explique ce qui fonde l'état de droit, c'est-à-dire l'adaptation des sanctions à une situation donnée.
En février, Éric Drouet était au tribunal pour avoir organisé des manifestations sans autorisation. Alors que la loi prévoit jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, le procureur a requis un mois avec sursis et 500 euros d'amende. C'est du laxisme ?
Non, ce n'est pas du laxisme. Monsieur Drouet, dont je rappelle qu'il n'avait pas de casier judiciaire, Monsieur Drouet répond ainsi aux infractions qui lui ont été reprochées. Je rappelle qu'il y aura un second jugement. Monsieur Drouet doit à nouveau être jugé pour d'autres faits le 5 juin. Donc au total, je pense qu'il sera jugé pour les infractions qu'il a commises.
En tout cas, ça n'y fait...
En tout cas, jusqu'à présent.
Ça ne fait ni chaud ni froid à Éric Drouet, puisqu'il a lancé un appel pour bloquer aujourd'hui des raffineries partout en France.
Ça ne me semble pas acceptable. Je crois là que lorsqu'il y a incitation à violence sur Internet, il peut y avoir des sanctions. C'est les magistrats qui décident, je le redis clairement, mais il me semble qu'on ne peut pas laisser les choses aller de cette manière.
Le Premier ministre a reparlé de l'utilisation de l'article 40 de procédure pénale. C'est la possibilité de dénoncer ceux qui encouragent les violences. Sera-t-il utilisé donc, à l'encontre d'Éric Drouet, de Maxime Nicole et que risque-t-il ?
Il sera utilisé à l'égard de tous ceux qui incitent à des actions violentes. Les magistrats jugeront de ce qu'il doit en advenir. Mais le Premier ministre a été très clair. On ne peut pas laisser de telles incitations à la violence impunément se dérouler sur Internet.
Nicole Belloubet, avez-vous les conclusions des premières enquêtes de l'IGPN, la police des polices, saisie par la justice de 174 affaires de violences policières présumées, 83 oui. des 140 investigations concernent des tirs de LBD.
Oui, non, nous n'avons pas encore les conclusions.
Toujours
de ces
pas
enquêtes.
De conclusions.
Toujours pas les
Et
conclusions.
Les premières datent d'il y a 4 mois.
Oui, mais nous n'avons toujours pas les conclusions.
Mais vous comprenez aussi le reproche qui peut être fait, c'est-à-dire quand
enquêtes,
il s'agit de policiers, ça prend du temps, on n'a jamais les réponses, on n'a jamais les conclusions.
Quand je vous ai dit tout à l'heure, Madame Crespo-Mara, que nous avions encore 1800 jugements qui étaient en attente, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi des enquêtes.
Mais vous m'avez donné des jugements, des comparutions immédiates, des résultats déjà sur certaines enquêtes. Là, il n'y en a pas,
manifestement. Quand on a les éléments de preuve qui sont immédiats, qui sont facilement utilisables, eh bien, on peut déclencher une comparution immédiate. Dans d'autres cas, quand il y a une enquête qui est nécessaire.
Sur des manifestants éborgnés,
sur des manifestants comme sur des policiers. Pardon ?
Sur des manifestants éborgnés, ça prend plus de temps ? Le constat est clair et rapide, non ?
Mais non, le constat n'est pas clair, n'est pas rapide. Il faut savoir dans quelles circonstances, dans quel contexte est-ce que ça s'est déroulé.
Donc toujours pas de conclusion concernant les policiers.
Pas à ce stade.
Nicole Belloubet, le RAID est intervenu hier à la prison de Condé-sur-Sarthe pour interpeller 5 détenus soupçonnés d'être liés à l'agression de 2 gardiens. Pourquoi appeler la police pour interpeller des individus qui sont déjà en prison ?
Eh bien, tout simplement parce que l'établissement de Condé-sur-Sarthe, qui a subi un véritable choc avec l'attentat à l'égard de ces 2 surveillants, n'a pas aujourd'hui repris son fonctionnement normal, d'une part, et d'autre, il va falloir évidemment que ce fonctionnement revienne, et d'autre part, parce qu'il nous a semblé qu'il y avait sans doute un risque potentiel, et c'est la raison pour laquelle on a demandé l'appui du RAID.
Les policiers, les gardiens de prison demandent à être plus armée, demande notamment à avoir un pistolet électrique, notamment. Est-ce que vous allez les armer davantage ?
Toutes les organisations syndicales ne sont pas d'accord sur cet armement, parce que quand vous êtes en milieu clos, il faut bien voir qu'une telle arme pourrait se retourner contre les surveillants eux-mêmes. Mais je me suis engagée envers les organisations syndicales à ce que l'on ait un groupe de travail pour voir... dans quelles conditions est-ce que cet armement pourrait avoir lieu ? Juste un mot pour dire que d'ores et déjà, dans certaines situations, les surveillants pénitentiaires sont armés.
Donc le conflit est toujours en cours, en tout cas, vous nous dites, puisqu'à Condé-sur-Sarthe, le mouvement...
À Condé-sur-Sarthe, nous avons un établissement qui, évidemment, a subi ce choc et qui est perturbé. Ailleurs, les choses se passent plutôt correctement.
Et concernant cette attaque de Condé-sur-Sarthe et ces 5 interpellations hier, il s'agit de détenus radicalisés qui ont encouragé le passage à l'acte?
Alors, écoutez, il y a une enquête qui est en cours, donc il m'est très difficile de vous dire exactement ce qu'il y a dans l'enquête. J'ai bien vu ce matin qu'il y avait eu une violation du secret de l'enquête dans l'un des journaux du matin. Mais moi, je ne souhaite pas aller au-delà. Ce que j'ai demandé pour que l'enquête puisse se dérouler normalement, c'est que les écoutes du renseignement pénitentiaire soient livrées à l'autorité judiciaire.
Parce qu'on peut lire effectivement dans le Parisien que des conversations entre détenus ont été enregistrées, qu'elles annonçaient l'attaque, mais qu'elles n'ont pas été écoutées à temps.
Alors, le renseignement pénitentiaire n'écoute jamais en direct toutes les écoutes qui sont faites. Matériellement, c'est impossible. Il y a toujours un délai de traitement. Mais vous le savez, j'ai aussi demandé une inspection de la justice pour voir s'il y avait eu des dysfonctionnements dans le traitement de ces informations.
Et c'est en cours?
C'est en cours, ça va être très rapide. Là, je peux vous le dire, c'est dans 15 jours à peu près maintenant.
Merci Nicole Belloubet.
Merci à vous.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara à 8h15, comme tous les jours sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. Avec la journée de mobilisation dans toute la France aujourd'hui à l'appel de CGT et Force Ouvrière pour défendre le pouvoir d'achat. Et après les violences de samedi dernier, les annonces du gouvernement vont-elles être suffisantes? En tous les cas, côté Gilets jaunes, il reste déterminé à manifester.
Il est 8h27, à tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
La revue de presse très attendue avec David Abiker. Quel est votre mot-clé ce matin?
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Le mot-clé c'est santé. On examine à l'Assemblée le projet de loi de santé. Je vais vous parler de la Charente qui cherche 10 médecins généralistes et elle cherche tellement qu'elle cherche aussi le chasseur de tête de médecins généralistes pour les trouver.
Ouh là 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 là, ça n'a pas l'air compliqué avec vous.
Ah ben c'est la recherche du médecin perdu.
Vous décryptez. On a aussi un docteur à 8h40, celui qui, grâce au rire, nous fait du bien, l'inimitable Nicolas Canteleu pour la revue de presque.
Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabronikos.
À 24h du printemps.
Oui, justement, l'équinoxe de printemps, c'est demain, mercredi 20, avec des grandes marées qui se dessinent. Laurent J'en Cabron. Parlais tout à l'heure, on rappelle, fort coefficient de marée, 115. Et donc, la joie des pêcheurs à pied. Et la plus belle journée, ou les plus belles journées pour pêcher à pied, c'est vendredi et samedi, parce que non seulement le coefficient sera élevé, mais en plus, il fera très très beau. Voilà, très donc on va se laver la tête. En ce qui concerne la marée noire, beaucoup moins souriant, nous avons un bon répit jusqu'à lundi prochain. Les navires sont sur zone et pour l'instant, les vents sont favorables. Voilà pour les événements de la semaine, des événements qui sont nombreux en météo. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de transition. Je pensais que c'était hier, bien non, c'est aujourd'hui. Je suis trompé un petit peu en disant qu'aujourd'hui, bien nous aurons progressivement des nuages encore et avec quelques éclaircies qui seront surtout dans les régions de l'Est. Le reste de la France sera sous une couche nuageuse percée de quelques rayons de soleil, je le disais, et puis qui donneront des températures encore un peu fraîche, entre 11 et 15 degrés. Mais promis, demain, ça va beaucoup mieux.
Très bien, on suivra ça avec vous à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 19 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Journée de grève et de manifestation à l'appel de la CGT et de FO pour soutenir le pouvoir d'achat. Elle devrait être particulièrement suivie dans les écoles maternelles et primaires. La manifestation parisienne partira de Saint-Michel à 13h, direction le Champ de Mars. Marie-Claire Cailletto de la direction confédérale de la CGT se dit prête à accueillir des gilets jaunes dans le cortège. On l'écoute.
Bien entendu, on souhaite que les manifestations puissent se rejoindre. Plus les gens se mettront ensemble, plus on aura de chances de se faire entendre, parce qu'aujourd'hui quand même, on a l'impression que le gouvernement est particulièrement sourd à nos questions. Ça veut dire qu'à la fin, il va falloir qu'ils sortent avec des propositions qui répondent à l'urgence sociale, donc des propositions concrètes. Et ça, il peut le faire. Donc on veut aujourd'hui dire, nous, on a des propositions et il faut qu'elles soient entendues de manière urgente et précise.
Propos recueillis par Martin Choc. Christophe Castaner devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur, va s'expliquer devant la commission des lois sur les violences de samedi dernier. L'exécutif qui veut éviter à tout prix de nouvelles violences pour interdire de manifester sur les Champs-Élysées et reste à savoir si la mesure va vraiment dissuader les Gilets jaunes. Pour Sabrina, 26 ans, la réponse est non.
C'est pas la première fois qu'il y a une entrave à notre liberté de circuler. Mais là, ça devient vraiment violent parce qu'on ne se gêne même plus en fait de porter atteinte aux libertés de chacun. De toute façon, je sais pas si ça va avoir un effet dissuasif sur certains. Moi, personnellement, et beaucoup d'entre nous, ça ne nous empêchera pas de faire. Ils peuvent pas bloquer toute la capitale, on ira ailleurs. Hein. Ça ne va absolument pas m'arrêter.
Sabrina avec Jihan Bergawi. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité. Déclaration d'Emmanuel Macron hier sur les Gilets jaunes. C'était lors d'un débat avec une soixantaine d'intellectuels qui a tout de même duré plus de 8 heures, son record. Mystère sur les motivations du tueur d'Utrecht aux Pays-Bas. Cet homme d'origine turque a ouvert le feu dans un tram, tuant 3 personnes et en blessant 5 autres. Il pourrait s'agir d'attentats terroristes ou d'un différend familial. Et puis un mot de sport avec le nageur Florent Manaudou qui revient. Il veut reprendre la compétition après 3 années consacrées à d'autres activités, d'autres passions comme le handball ou le cinéma. Et il nous donne rendez-vous aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Europe 1. Nico Séléguès, tout de suite on retrouve David Abicard pour sa revue de presse.
David, à la une des journaux ce matin, la riposte du gouvernement aux violences de samedi dernier.
Alors si l'idée de l'exécutif était de faire passer un message de fermeté aux Français, alors la presse le fait passer ce matin un peu comme une lettre à la poste, c'en est presque caricatural. Après le saccage des Champs-Élysées, Macron hausse le ton. Macron photographié en une du Parisien aujourd'hui en France, la mâchoire crispée, le regard déterminé. Idem pour Édouard Philippe qui fait lui la une de Libération. Contre les Gilets jaunes, le gouvernement sort la grosse artillerie. L'exécutif veut rétablir son autorité face aux casseurs, titre Le Figaro. Alors la presse quotidienne régionale est un peu plus circonspecte sur ses ambitions, comme le Dauphiné, qui ose cette question. La réponse du gouvernement est-elle à la hauteur? Et c'est vrai que depuis 4 mois que dure ce conflit avec les Gilets jaunes, c'est une des journaux sur les nouvelles résolutions du gouvernement font un peu sourire, un peu comme ces conseils à la une du numéro d'avril de Santé Magazine. Communiquer sans violence, faire baisser l'hypertension, soigner ses cicatrices ou chasser les parasites. Ce qui me conduit ce matin, non pas à vous parler de sécurité, mais plutôt de votre santé.
Et l'événement du Figaro, c'est l'examen du projet de loi santé examiné au Parlement jusqu'à mardi prochain.
Et si vous lisez attentivement le Figaro, vous découvrez un enjeu de sécurité publique derrière un enjeu de santé publique. Car ce projet de loi qui vise à renforcer la qualité des soins en révisant la carte hospitalière veut transformer d'ici 2022 certains hôpitaux jugés dangereux, écrit le Figaro, en hôpitaux de proximité. Alors ça va changer quoi cette réforme pour le patient? Eh bien 600 hôpitaux de proximité seront créés d'ici 2022, permettant la spécialisation des établissements et donc ils seront moins dangereux puisque mieux spécialisés, c'est ce qu'on comprend. Des assistants médicaux vont aussi faire leur apparition dans les cabinets des médecins et un médecin traitant sera désigné aux patients qui n'en trouvent pas. Alors ça m'amène à vous parler d'un exemple de difficulté à trouver des généralistes. On le trouve à la une de la Charente Libre ce matin. Le département de la Charente veut salarier 10 médecins généralistes. Eh bien ça va pas être simple. Parce qu'en 20 ans, le territoire a perdu 22% de ses médecins généralistes. 25% de la population a plus de 65 ans. Évidemment, plus on est vieux, plus on a besoin de médecins. Et 50 000 habitants du département vivent dans un petit désert médical. Alors non seulement il y a pénurie médicale, mais le département cherche un chasseur de tête, je vous le disais à l'instant, qui saura faire venir ses médecins. À la clé, un salaire net entre 4 000 et 6 000 euros selon l'expérience et un CDD de 3 ans, et bien malgré ça, je vous jure qu'ils auront du mal à les faire venir.
Et si on ne trouve pas de médecin, on fait quoi, David Abicard?
Eh bien, on fait travailler ceux qu'on a, les médecins qu'on a sur place, jusqu'à un âge canonique. Je plaisante, mais c'est un peu la une de Ouest-France. Dans Ouest-France, vous avez ce portrait du docteur Christian Chenet. Il a 97 ans. Et il consulte 2 fois par semaine dans son cabinet de Chevilly-Larue.
À 97 ans.
Ah si, je vous assure, il est né en 1921. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Il a soigné des générations de patients. Et son fils est même parti en retraite avant lui. Précise Ouest-France. Voilà ce que dit un de ses patients. Le docteur Chenet, on sait quand on entre dans son cabinet, mais pas quand on en ressort, confie un des patients. Alors pourquoi? Parce qu'il prend son temps. On se marre, mais en fait, il prend son temps. Il privilégie l'humain au-delà de l'examen clinique. Ouais. Il n'est pas là à faire des hamburgers. Derrière la personnalité hors norme de ce médecin, il y a ses qualités, que plébiscitent les Français dans le personnel médical. C'est quoi ces qualités ? Eh ben, c'est l'attention, c'est l'écoute, c'est le temps passé, c'est la disponibilité. Tout ça en un médecin de 97 ans. Et évidemment, les habitants, ils ont très peur de le voir partir, celui-là.
Je le trouve touchant et peut-être un sourire aussi, le sourire qui fait toute la différence.
Ah bah oui.
Mais si les autres médecins refusent de bosser jusqu'à 97 ans, comme le fameux docteur Chenet dont vous parlez ?
Eh ben, si on n'a pas assez de médecins ou s'ils prennent leur retraite trop tôt, la seule façon de résoudre l'équation, c'est de réduire le nombre de soignés. C'est ce qui ressort de plusieurs études ultra sérieuses menées en Belgique par le Centre fédéral d'expertise et la Fondation Roi Baudouin. C'est Le Soir qui nous raconte ça, Le Soir de Belgique. Il ressort de ces études que 40% des Belges songent sérieusement à conserver l'équilibre de la Sécu en arrêtant les traitements coûteux qui prolongeraient la vie des plus de 85 ans. Vous avez bien entendu. Mmh. Exemple, si 69% des Belges estiment légitime de dépenser 50 000 euros pour un traitement vital, ils ne sont que 28% à conserver cette opinion si le patient a plus de 85 ans.
Dingue.
Autrement dit, dans l'esprit d'une partie de la population, après 85 ans, c'est plus la peine de dépenser un sou pour soigner les très vieux. Alors vous savez ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé un film avec Charlton Heston, où une société victime d'une catastrophe écologique est obligée de se débarrasser de ses vieux pour nourrir les plus jeunes. Ça s'appelait Soleil Vert. Le film est sorti en 73 et l'action se passait à l'époque en 2022. 2022, c'est dans 3 ans.
Ça donne envie de le revoir.
Si ça vous déprime, j'ai autre chose.
Oui.
J'ai un titre dans Marianne qui s'appelle « Les déboires du médecin qui rallongeait les verges ». Je ne développe pas parce que je ne veux pas faire trop long.
Ok, on s'arrêtera là. Merci docteur David Abiquet. La revue de presse tous les jours sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il y en a un autre qui rallonge... le sourire,
oui, c'est
et la bonne humeur et la joie de vivre. Oui. C'est Nicolas Canteloup, il arrive dans quelques instants avec la revue de presse.
Il est 8h30.
Julie est là d'ailleurs.
Excellente matinée sur Europe 1.
Il est 8h42.
Attention, décollage immédiat. Julie est dans la place, Nicolas Canteloup est tout en haut, il nous regarde, la fusée démarre tout de suite. La revue de presse.
C'est presque de l'info déjà déchaînée, Nikos. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Nicole Belloubet.
Nicole Belloubet, vous êtes ministre de la Justice. Michel Delpuech, préfet de police, a été limogé. C'est le seul responsable du chaos. Écoutez, Madame Crespo-Mara, je ne dirais pas cela comme cela. Je ne dirais pas cela en ces termes. Simplement, cela n'a échappé à personne. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont conduit à cette décision qui a pu impacter une personne sur le plan individuel. Oui, enfin, il a été limogé. Tout est sa faute, c'est ça. Écoutez, je ne dirais pas cela en ces termes, Madame Crespo-Mara. Il y a évidemment une responsabilité collective du gouvernement qui a conduit à cette décision qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, enfin, le préfet de police est le fusible idéal. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Il y a une situation critique qui n'a échappé à personne et qui a pu impacter une personne en responsabilité. Oui, bref, c'est une sanction pour le préfet. Écoutez, je ne dirais pas cela comme ça, Madame Crespo-Mara. Je vous l'ai dit, et vous commencez à me gonfler, je me force à respecter une forme de procédure, une forme de protocole et de mots choisis sur votre antenne. Donc, très calmement, on a dégagé ce vieux préfet vermoulu qui n'a pas été capable, en 18 semaines, d'arrêter ce bordel qui nous fait tous passer pour des cons. Chier, merde ! Et tout cela, bien sûr, responsabilité, Madame Crespo-Mara.
Voilà.
Merci, Madame la ministre. Voyez quand vous voulez.
Allez, on poursuit avec... le rappel du titre principal de l'actualité, Nikos.
Ouais, c'est la fusée qui démarre ou qui décolle, enfin c'est pareil. Salut à tous, une matinale très musicale ce morning. On parle de NTM, de Michel Delpech.
Delpech, pardon.
Mais l'info surround, c'est la hausse des contraventions pour participation à une manifestation interdite. Elle passera de 38 euros à 135 euros. Christophe Castaner a commenté la décision de ce passage à 135 euros en déclarant: ouais, ça va, 135 euros, ça coûte toujours moins cher qu'une bouteille en boîte. Et puis un mot de la détresse dans le monde du champagne qui ne se vend plus chez les jeunes. Les producteurs font tout pour les faire revenir. Heureusement, heureusement qu'ils restent. Christophe Castaner et Lolo Cabrol pour relancer le champagne. Merci messieurs, on compte sur vous.
Allez, on revient
bon,
sur...
Bon, pas trop sympa. Il
réagit.
C'est pas un train qui me colle. Un peu d'étiquette. Non, j'ai rien à dire. Bon, c'était ce jingle. À vous, Julie.
On revient sur la crise des gilets jaunes, encore et toujours. Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour à toutes et tous. Bon, vous arrêtez avec cette musique des bronzés qui font du ski, bordel. C'est ça, la régie, on tient son petit gag et on le lâche pas, c'est ça?
C'est un peu ça, oui.
Oh, les relous, les Romains, Nicolas, les Nicolas, Baudin, les Jérémy.
Oui, avec Romain.
Il a raison, pardon, c'est Jean-Michel Apathy. Hein, oui, c'est moi, la Cassandre des Pyrénées-Atlantiques. On n'a plus le droit de manifester sur les champs. Super la solution, on va déplacer le bordel de deux rues. Ça, moi, je vous le dis, ça sent la guerre civile. Macron ferme la boîte à idées et ouvre la boîte à gifles.
Bonjour, c'est Bernard Laporte, consultant. En violence tout terrain, j'ai entendu le mot boîte à gifles, donc je réagis.
Ben, on en parlait effectivement, mais si on répond à la violence par la violence, c'est la loi du talion, Bernard Laporte.
La loi du talion, non, alors là, je le précise, bouche-toi en précaution les oreilles, Marlène Schiappa, la loi du talion, c'est pour les gonzesses. Hein, ce que Édouard Philippe et Macron proposent, c'est plus radical. Hein, tu me balances un petit caillou, je te chope, je te désosse, je t'ouvre en deux, je te plie les genoux à l'envers, je te fais bouffer ton gilet jaune, ton casque, ta batte de baseball, et je te saute à pieds joints sur la colonne vertébrale face au trampoline.
Ah, quand même.
Allez, à samedi.
Merci, cher Bernard Laporte, ça me va comme solution.
Alors, vous êtes très agacé en ce moment, Monsieur le Président. Vous avez lâché un « maintenant, c'est terminé ».
Oui, maintenant, c'est terminé. Il suffit. Ils veulent la guerre ? Eh bien, ils l'auront, la putain de guerre. Hein, s'il faut rappeler Benalla, ben je rappellerai mon Alexou.
Oula.
Vous savez, il a la mandale généreuse pour moins que ça.
Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'état d'esprit comme ça ?
Mais les symboles.
Les symboles.
Les symboles, Madame Leclerc, les symboles. Ils ont détruit l'Arc de Triomphe. Ok, je n'étais pas satisfait. Ils ont éteint la flamme du soldat inconnu. J'étais colère. Ils ont cramé le mobilier urbain, pas encore, mais s'attaquer aux fouquettes. Là, je dis stop. Où vont-ils manger, mes amis blindés, maintenant s'il n'y a plus de fouquettes? Hein, chez Léon de Bruxelles, peut-être? Vous les aimez gîner, mes poteaux du CAC 40 avec leurs moules à volonté et leurs frites congelées? C'est Oula. Ça que vous voulez? Vous voulez qu'ils crèvent, les blindés, c'est ça?
Oui, pardonnez-moi, excusez-moi, j'entends ce cri de colère. Pardon, monsieur le président. Je vous entendais, je suis moi-même solidaire et indigné.
Bonjour Guillaume Durand, hey. Ça faisait longtemps. Hein,
oui, bonjour les amis. Oui, je vais vous dire, je suis avec le président, je suis d'accord, il faut une plus grande fermeté, une plus grande solidarité, pardonne-nous, entre nous les blindés, parce que si on ne réagit pas, demain ce sera pire. Ils s'en prendront au café de Flore, ils s'en prendront au Ritz.
Oh, leur donnez pas d'idée là.
C'est tellement bon ce que vous dites, mon cher Guillaume.
Ah, Stéphane Bern, il y a du monde ce matin. Alors vous, l'amoureux du patrimoine, vous devez être peiné quand même.
Oh mais oui, je ne suis que peine, je suis que souffrance, je ne suis que lamentation. Ça me déchire le cœur de voir la vitrine de la Durée brisée, la vitrine de Bulgarie volée en éclats, la vitrine de Swarovski en mille morceaux. Non, je me dis pourvu que ces pauvres commerçants pensent à appeler les vérandas, Kena. La reine des vérandas. Oui, mais écoutez, vous ne me regardez pas comme ça, il faut bien placer son petit sponsor pour garder la tête hors de l'eau, par les temps qui courent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, on se fait des couilles, des gonades en platine dans le monde de la vitrine en ce moment, vous savez.
Et ça rime. Merci Stéphane.
Vous en prie. Une rime riche.
Oh pardon, monsieur le président, on vous a interrompu du coup, hein, vous êtes toujours là.
Oui, merci. Je suis un subalterne, j'ai bien compris dans votre émission. Écoutez,
pas dit ça.
Je disais qu'en s'attaquant à l'Arc de Triomphe, ils se sont attaqués à la République. Mais en s'attaquant aux fouquettes, c'est moi qu'ils attaquent, ces petits bâtards.
Oula, vous êtes remonté, dites donc, hein.
Et comment, maman? Je vous préviens, les gilets jaunes. Si vous traversez les gilets jaunes, si vous traversez la rue et que vous cramez chez Louis Vuitton, là c'est Brigitte qui va être en guerre. Et c'est pas une commode la Brigitte. Alors j'appuierai sous le bouton nucléaire pour faire sauter Maxime Nicole s'il le faut.
Oula, merci monsieur le président. Restons-en là pour aujourd'hui. La journaliste Léa Salamé a mis ses activités de journaliste politique entre parenthèses, car son compagnon, Raphaël Glucksmann, est tête de liste pour le PS aux Européennes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Allez, ben voyons, ça continue. Hein, après Anne Sinclair et DSK, hein, après Ockrent et Kouchner, après Audrey Pulvar et Maud Bourg,
Trier, Veller, Hollande, Julie Leclerc, René Coty.
Oh là. Je n'ai jamais vécu avec René Coty.
Ouais. C'est pas ce que dit la rumeur. Non mais oh, franchement, hey, les journées se femmes, vous m'écoutez là? Vous pouvez aller pécho ailleurs qu'à l'Assemblée nationale pour faire votre marché. Hein, ça vous dégoûte, un caméraman, un technicien? Hein, c'est pas l'amour est dans le pré, les émissions politiques, je sache.
Oui, en plus, la candidature de Raphaël Glucksmann fait polémique car il est en tête de liste, il est tête de liste du PS, mais lui, il n'est pas membre du Parti Socialiste.
Ouais, mais tu m'étonnes qu'il n'est pas socialiste. Avec le pognon qu'ils doivent gagner tous les deux, ils ne doivent pas être très gilets jaunes non plus, franchement.
Vous pensez que c'est le retour, je ne sais pas moi, de la gauche caviar?
Non, c'est fini la gauche caviar. Ah. Maintenant, c'est la gauche caviar bio, madame. La caviar bio, hein, on est bien dessus. On est en 2019, les habitudes alimentaires ont changé.
Eh ben merci, monsieur Mélenchon. On va revenir sur le bilan des dégradations sur les Champs-Élysées avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour, vous êtes en duplex des Champs-Élysées ce matin. Hein,
oui, bonjour madame Julie. Oui, ici Anne Hidalgo, en direct de la poubelle Avenue du Monde. Bon, écoutez, c'était facile.
Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Je suis près de mes amis de la propreté de Paris. Écoutez, je suis en train de faire griller mes tartines sur un feu de kiosque. C'est bien agréable. Ah, bah écoutez, elles sont prêtes. Bien pour ce très joli bruit de grille-pain à la régie. Qu'est-ce qu'on s'amuse.
Bravo les gars.
C'était un bruit de grille-pain, ça?
Remettez-le un peu, remettez-le.
Oui, je pense qu'il est temps de le ramener chez Nardi. J'espère que vous avez le ticket de caisse.
Alors, on a vu dans la presse la carte des dégradations. Un magasin Célio qui a été pillé. Il n'y a pas que ça en plus, mais enfin bon.
Oui, et c'est là véritablement qu'on voit quand même que les gilets jaunes sont un peu cons. Pardonnez-moi, ils n'ont pas touché à la boutique Vuitton, mais ils ont pillé Célio. Attention les gilets jaunes, quand on pille un magasin Célio, après il faut s'habiller en Célio.
Mon Dieu. Et puis ils ont pillé aussi un magasin Nespresso.
Nespresso, oui, what else?
Bah aussi. Bien, Anne Hidalgo, ce matin, bravo. Hein.
Tout en bonne humeur.
Ils ont aussi mis le feu aux fouquettes, hein. Vous avez vu ça, hein.
Franchement, si c'est pas malheureux, au prix où on paye la seule meunière aux fouquettes, si c'est pour qu'elle soit cramée, franchement, tout en bonne humeur. Allez.
Le cinéma Le Marignan a été incendié aussi. Hein.
Oui, aussi. Alors ça, par contre, excusez-moi de m'inscrire en faux, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce sont des spectateurs lambda qui sortaient du cinéma. Ils ont vu All Inclusive de Fabien Onteniente.
Ça commence.
Et oui, remarquez dans son nom, il y a honteux et niente, qui veut dire néant en italien. On avait quand même des indices.
Bien joué, merci Annie Delgaux.
Grande forme Nicolas Cantelou ce matin avec la revue de presse. Bravo à Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Julie.
Et merci. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre imitation préférée de Nicolas Cantelou sur europe1.fr. Rendez-vous sur la page du Club Europe 1.
Moi j'en ai un, c'est celui qui fait Julie Leclerc. J'adore quand il fait ça, Dominique Strauss-Kahn version Cantelou.
Julie Leclerc.
Il est jamais loin. Le tour de la question avec vous, Wendy Bouchard.
Chers amis, bonjour.
À partir de 9h,
absolument.
Deux heures, deux thèmes.
Et le premier, je vous propose la question suivante. Les mesures annoncées par Édouard Philippe hier peuvent-elles pour vous stopper l'escalade de la violence? Interdiction des manifestations sur les champs, notamment augmentation des amendes en cas de rassemblement interdit. On vient d'en reparler. Limogeage du préfet de Paris, est-ce que cela rassure les citoyens, les commerçants que vous êtes? Ils seront représentés ainsi que les forces de police qui nous diront comment la stratégie de maintien de l'ordre peut évoluer. Et puis à partir de 10h, vous voyez à côté de moi l'ami David Abiker qui est un fan absolu d'un opéra rock qui s'appelle Starmania. Ça fait 40 ans que cette petite musique
dure. Le monde
dure.
Est stone.
Le monde est stone. Fabienne Thibault viendra nous raconter son Starmania et nous revivrons cette aventure en chanson avec vos musiques préférées. Vous n'hésitez pas là aussi à nous appeler au 3921.
On vous écoutera avec grand plaisir, ma chère Wendy Bouchard, à partir de 9h sur Europe 1.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nicolas Aliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Lolo, il nous rate pas Nicolas Cantelou. Hein,
ah non,
il lâche pas l'affaire. Hein.
Moi c'est Lassalle que je préfère.
Ah, Jean Lassalle. Jean
Lassalle. Fait Jean Lassalle.
Dans le concours des... Je veux bien y participer au concours. Hein.
D'accord. Ouais, parce que les auditeurs peuvent choisir l'imitation préférée.
Sur la page du Club Europe 1.
Voilà. Je vais simplement vous dire que le printemps c'est demain et que ce printemps, eh bien, nous allons le fêter tous ensemble demain dans la joie et la bonne humeur parce qu'il fera beau. et que le beau temps arrive avec le jour du printemps. Et ma foi, c'est le printemps calendaire, c'est celui que nous aimons, c'est celui que nous avons appris à l'école, et c'est celui qui est le nôtre, pas celui de la météo, qui commence le 1er mars. Le 21 mars et le 20 et 21, c'est le nôtre. Et donc aujourd'hui, ce sera une journée de transition avec un temps assez beau près de l'Est, avec encore un petit peu de pluie près de la Méditerranée, près de des Pyrénées, et puis un ciel voilé sur Paris où il ne pleuvra pas, voilé cet après-midi. Sur l'étoile de la Manche également, un temps nuageux. Les températures entre 11 et 15 degrés. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Nous sommes le mardi 19 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, le gouvernement qui durcit le ton après les violences de samedi dernier sur les Champs-Élysées, il a dévoilé hier soir des mesures anti-casseurs avec l'interdiction notamment de manifester dans certains quartiers sensibles et des nouveaux moyens pour les forces de l'ordre. Qu'en pensent les policiers? Écoutez la réaction de David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il était mon invité à 7h45.
Quand on voit le bilan de la journée de samedi, on peut quand même considérer que c'est un échec. C'est là où il sera très important de faire des retours d'expérience, associer les gens de terrain qui sont les mieux placés pour dire ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer d'améliorer les dispositifs qui vont venir. Les policiers, souvent, ont l'impression que la justice n'est pas assez sévère par rapport aux gens qu'on interpelle. Amenons les magistrats dans les services de police, mais ceux du quotidien et ceux où on a la délinquance de masse pour qu'ils voient ce qui se passe réellement.
Et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. Elle a répondu au commissaire de police, David Lebars, au sujet du supposé laxisme de la justice. On l'écoute.
Quand on regarde le nombre de prisonniers qu'on a en France, on ne peut pas dire que la justice soit laxiste. Et sur les événements des Gilets jaunes, tant les procureurs que les magistrats, je crois, choisissent des sanctions qui sont adaptées. Il faut bien voir que parmi les personnes qui sont interpellées, souvent, ce sont des premières fois. Et donc, vous devez forcément adapter la peine. Je ne justifie pas le laxisme, j'explique ce qui fonde l'état de droit, c'est-à-dire l'adaptation des sanctions à une situation donnée.
À 7h20, on vous a emmené aux États-Unis dans les coulisses de la nouvelle guerre technologique que se livrent les grandes puissances autour de l'intelligence artificielle. Après Internet, c'est le secteur stratégique qui va bouleverser nos vies dans les 30 années à venir, comme nous l'expliquait Yann Lequin, chercheur français pionnier dans l'intelligence artificielle. Écoutez, c'était dans Europe 1 va plus loin.
Si tout le transport, les voitures se conduisent toutes seules, ça va changer la manière dont on organise les villes, par exemple. Si des technologies telles que la téléprésence par réalité virtuelle aussi apparaît, ça va aussi complètement changer la nature de l'interaction entre les gens. C'est-à-dire les gens vont voyager peut-être moins. Et puis, pour la santé publique, on peut analyser, par exemple, la santé publique en analysant ce qui passe dans les égouts.
L'intelligence artificielle, un dossier à suivre dans les prochaines semaines sur Europe 1. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci Céline Dacosta.
Merci à vous Nikos.
Elle arrive, elle est déjà en piste, elle est en studio. Wendy Bouchard.
Oui, je vous attends, chers amis. Vos témoignages vont nous éclairer jusqu'à 11h au 39-21.
Rendez-vous demain, effectivement, à 6h50, lors du passage de relais avec Mathieu Noël et Eva Rock. Merci de votre fidélité. Bravo aux équipes techniques et éditoriales. Prenez soin de vous et à demain.